Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans le climat part en live. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez, que je suis pas trop fort. Est-ce que vous allez bien, le chat? Bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Et oui, me demande, est-ce qu'on laisse partir le chat en politique ce soir ou on limite? Bah, si ça part en politique, ça peut, hein, mais comme je disais, j'ai pas une grosse expertise là-dedans, donc je préfère laisser parler plus informé que moi. On peut quand même commencer par toucher quelques mots du sujet, et on verra combien de temps je tiens là-dessus. Alors, je suppose que la majorité d'entre vous ont été surpris quand même par l'annonce de notre président. C'était une possibilité qu'on n'avait pas évoquée, je pense, dans le dernier live de mardi. Ah, Navislide, pied cassé, désolé pour toi. Donc, que dire? Je peux quand même essayer de dire quelques mots au moins de ce que ça a donné au niveau européen. Au niveau européen, je vous ai trouvé un petit article de Courrier International qui aborde rapidement ça. Donc il y a une progression de l'extrême droite hein, dans différents pays, et notamment en France et en Allemagne. Et il y a la question qui se pose, et il y a eu deux petits articles dans Science et Nature, pardon, sur à quel point c'est gênant ou c'est dangereux pour les politiques européennes, et notamment les politiques écologiques. Merci Purple Penitence pour ton abonnement Prime. Et donc, je sais pas si on peut le lire, on peut le lire rapidement si vous voulez. Donc là, on a quelqu'un qui a l'air bien placé pour parler de politique au niveau européen, qui dit l'extrême droite compte en son sein un certain nombre de climato-sceptiques et de personnes irritées par les études scientifiques. Donc c'est évident hein, que si l'extrême droite prend beaucoup de poids au niveau du Parlement européen, ça va considérablement nuire aux politiques climatiques, hein, parce qu'ils ont fait que s'opposer à ces politiques jusque-là. On en avait parlé mardi dernier, donc ça serait une catastrophe pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, le poids même grandissant de ces partis d'extrême droite a pour le moment moins d'effet que celui du déclin des Verts européens. En fait, ce qui s'est passé au niveau européen, c'est que les Verts ont perdu un certain nombre de postes, mais ça a été récupéré par le parti de droite, le PP, je crois. Et en fait, pour l'instant, ce parti-là, allié avec la gauche, a encore une majorité. Donc, toutes les questions du pacte vert et des législations en cours hein, sur la réduction des émissions, sur les investissements dans les renouvelables, sur l'interdiction de la vente des voitures thermiques, pour l'instant, c'est pas encore à la poubelle. Hein. Comment dire, la majorité du Parlement qui a voté pour ces mesures est encore là. Après, s'il y a un affaiblissement, notamment des Verts, on peut imaginer qu'il y ait une réduction de certaines targets ou qu'il y ait moins de pression à aller plus loin. Ça peut changer un peu l'équilibre des forces, mais on n'est pas non plus un raz-de-marée de l'extrême droite qui pourrait tout stopper. Ils n'en ont pas le pouvoir. Et en plus, ce qui se passe aussi au niveau européen, si j'ai bien compris, hein, c'est qu'ils arrivent quand même assez divisés parce que les extrêmes droites nationales n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et par exemple, l'AfD allemande est même en dehors des deux groupes d'extrême droite du Parlement. Donc, bon, je suppose qu'ils voteront ensemble contre l'environnement, mais c'est quand même pas, faut pas croire que l'extrême droite qui vient des différents pays arrive cohérente au niveau de l'Union européenne et arrive à dicter ses lois, quoi. Et donc là, ils le mettent, voilà, faible présence des Verts hein, qui a reculé dans pas mal de pays, notamment en France et en Allemagne. Ça peut avoir une incidence sur les négociations concernant l'objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de 90% d'ici 2040. Là, il y a la question de est-ce que c'est lié à ce qu'il y a eu sur l'agriculture? Il y a eu ces mesures de l'Union européenne sur l'agriculture qui faisaient partie du pacte vert et qui ont soulevé un certain nombre de manifestations et de protestations en France, mais pas seulement en France, hein, dans le reste de l'Europe. Il y a vraiment l'agriculture sur lesquelles on a encore un peu de mal et c'est un sujet que je connais moins hein, parmi les sujets environnementaux, donc je suis pas hyper bien positionné pour vous expliquer tout ça. Et voilà, on rappelle quand même que le climat, c'est une préoccupation pour les Européens. Alors, je crois que cet article est derrière un paywall, mais on peut aller vite fait. On peut aller vite fait regarder aussi ce qu'en dit Science et Nature. Il y a eu deux petits articles. Alors là, on parle pas d'articles revus par les pairs, hein, c'est des news dans Science. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Donc là, ils mettent que les experts politiques sont plutôt soulagés en disant que ça aurait pu être pire. Et notamment que ce que je vous disais juste avant, les partis européens pro, enfin les partis pro-Union européenne ont encore une majorité assez confortable avec 400 sièges sur 720, même si ça dépend un peu des alliances. Donc il souligne bien que la France, hein, on est les grands champions de l'extrême droite en Europe maintenant, 31% des votes, l'Allemagne est à 16%. Et en réponse, Macron colle de snap général, election for... pour le 30 juin. Et du coup, l'expert qui est interrogé ici, il dit que le paysage est resté relativement stable malgré les gains de l'extrême droite qui peuvent questionner, enfin réduire certaines dépenses. Et il y aura notamment la question du budget. Donc, il peut y avoir des choses qui se font raboter. Hein. Le truc, c'est pas de dire que c'est insignifiant cette évolution. Juste qu'au niveau de l'Union européenne, la coalition qui a mis en place le pacte vert, elle a encore une majorité. Je sais pas quoi rajouter. Attendez, je vais prendre un peu le chat. Ouais, les Verts ont baissé en France et en Allemagne aussi. Guillaume Eiffert, ouais, je pense que je l'ai dit. Jacara 2 entre les Polonais qui haïssent les Russes et les Hongrois qui leur lèchent le cul, une alliance est impossible. Ouais, il y a ça aussi. Et le RN pro-russe aussi, et Mélanie pro-américaine, Guillaume Eiffert nous dit. Donc, c'est vrai que sur les questions géopolitiques, par exemple, l'extrême droite est quand même assez divisée entre les pays européens. Roosevelt 67, incroyable, il existe des espaces où on parle des européennes, ça me rassure. Bah, on en a parlé mardi dernier, hein, le Parlement européen fait quand même beaucoup sur les questions écologiques. Et moi, je pense que si je parlais plus de politique, je parlerais quand même pas mal de l'Union européenne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là-bas. Après, tout ça demande d'être formé sur ces questions et de suivre et tout, et j'ai pas une chaîne de politique, quoi. Donc j'improvise quelques trucs, mais je peux pas faire beaucoup plus. Pour l'instant, l'AFD est tricard, mais je crois qu'ils ont 16 sièges et ça va être tentant pour l'ED européenne de les récupérer. Ouais, c'est possible. AFD siégera probablement avec ECR, qui est un des deux groupes d'extrême droite au Parlement européen. Ok, Guillaume Fer. Ah, Foxan, bonne question sur l'abstention allemande, je ne sais pas du tout. J'ai pas suivi ça d'assez près. Navisline nous dit 65%. Participation par pays, l'Allemagne serait à 65%. Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que vous le voyez? Ah oui, vous le voyez. Donc là, on voit la participation par pays. Ah, la moyenne de l'Union européenne, c'est pas élevé quand même, hein. Autour de 50%, c'est pas incroyable. En fait, la France, elle est dans la moyenne, quoi. Ouais, avec des pays. Belgique, je crois que vous êtes obligé de voter, sinon il y a une contravention. Est-ce que c'est vrai aussi pour les élections? Européenne, je sais pas, mais je crois que pour les élections nationales, c'est le cas. Luxembourg, Malte. Intéressant. Guillaume Eiffert dit pas incroyable, mais plus forte participation depuis 1994. Ok, merci pour l'info. Et il y avait un autre article, ouais, qui dit un peu la même chose, mais dans Nature, ce coup-ci, pour ceux que ça intéresse, je sais pas si ça vaut le coup. Donc voilà, le gros des politiques devrait être encore là, mais ça change un peu l'équilibre des forces. Donc ça pose des questions sur certains budgets qui pourraient être, ou des ambitions qui pourraient être revues à la baisse. Donc ça dit à peu près la même chose. L'article de Nature et de Science sont, je dirais pas rassurant, c'est une évolution dans le mauvais sens, mais rassurant par rapport à ce qu'on aurait pu avoir, et ou rassurant par rapport à la situation française qui est quand même assez incroyable. Hein. dissoudre l'Assemblée au moment où l'extrême droite est aussi forte, c'est étonnant, étonnant, mais voilà. Bon, mon absence de connaissances politiques m'empêche sans doute d'y voir une logique défendable. En tout cas, c'est dangereux, hein. Va falloir se mobiliser, va falloir aller voter, voilà, va falloir faire des procurations pour celles et ceux qui ne sont pas là parce que c'est dangereux pour la France en général, mais pour nous qui nous intéressons aux questions d'écologie et de climat, l'extrême droite ne s'illustre pas vraiment sur ces enjeux-là. Hein. Pour le dire gentiment, ils sont vraiment complètement à la ramasse, la droite un petit peu aussi. Et du coup, qu'ils prennent plus de pouvoir au niveau parlementaire, c'est quand même vraiment pas une bonne nouvelle. Hein. En plus du fait que ça va ralentir plein de processus en cours, hein, de loi d'accélération des renouvelables, de la SNBC, de la refonte de la SNBC, de la stratégie nationale bas carbone qu'on attendait et tout, et qui vont prendre du retard. Donc vraiment, c'est vraiment, vraiment pas une bonne nouvelle, quoi. Macron tente le coup de poker. Ouais, je sais pas. Ouais, Louis Pouzin, ça, j'ai pas du tout regardé. Du coup, là, c'est impossible de s'inscrire sur les listes pour les gens qui ne sont pas inscrits. Moi, je suis inscrit, hein. J'ai voté dimanche. Mais si quelqu'un voulait s'inscrire à ce moment-là, là, il n'y a aucune chance ou il peut y avoir des délais accélérés dans une situation comme ça. Je sais pas si quelqu'un a regardé. Au vu de l'évolution politique en Europe, est-ce que c'est sérieux de calculer la température à la fin du siècle en fonction des engagements climatiques pris actuellement, alors que l'extrême droite peut tout annuler comme Trump avait fait? Ou je suis trop pessimiste? Bah, de toute façon, on a plein de scénarios différents, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir où on en est avec les mesures politiques actuelles. Et si tout est annulé, ben, on recalculera avec les politiques actuelles à la hausse. Ok, non, c'est clos. Ok. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, les gens qui se sont rendus compte au moment des Européennes qu'ils n'étaient pas inscrits, ils peuvent avoir un peu la mort, hein, parce que c'est quand même un moment charnière. Je sais pas. On verra. On verra. Mais effectivement, ouais, ça peut bouger des choses, ce type d'élection, hein, pour plein de gens, hein, et pour leur vie au quotidien, mais ça joue aussi sur les questions de climat. Donc ouais, pas une bonne évolution politique. Préoccupation pour le climat, j'ai vu qu'il y avait pas mal de sondages où ça arrivait en troisième position, derrière l'immigration qui est souvent en première, et le pouvoir d'achat. Donc on verra ce que ça donne. J'ai regardé aussi quelques, il y a un peu des reportages sur des sondages, etc. Et c'est pas rassurant de comprendre. Bref, bref, bref. Il y a d'autres chaînes de politique qui parleront de ça mieux que moi. Si vous voulez aller les voir, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Mais je pense que Jean Massier ou qui est en live aussi peut-être bien. Ouais. Il doit être plus solide que moi sur les questions politiques, donc n'hésitez pas à me laisser tomber si l'actualité est trop brûlante. Guillaume Effer, pouvoir d'achat, inflation en premier. Ok, ouais, c'est possible. En tout cas, ça va être un sacré bazar. Ça va être un sacré bazar. Alors, je vais commencer par parler un petit peu de climat avant le sujet principal. Et ouais, y a eu quelques discussions autour du climat, notamment avec ce qui est sorti par le. Je sais même plus comment ils disent. IGCC, je sais même plus, voilà. En fait, c'est une mise à jour de certains indicateurs du changement climatique. Qui est fait assez régulièrement pour voir où on est. Et si vous regardez un peu et que vous connaissez les scientifiques du climat, il y a quand même pas mal de grands noms, y compris une partie importante d'auteurs là-dedans du rapport du GIEC. Et donc ça permet d'avoir une actualisation. On salue évidemment Valérie Masson-Delmotte pour son travail important, c'est la reine. C'est la reine. Et donc, on a une actualisation de certains indicateurs clés qui a été résumé dans une figure qui est particulière. Je ne sais pas trop quoi penser de ce graphisme. On voit plusieurs choses intéressantes. Ah ouais, Nono nous dit, plein déménagement, j'ai demandé à changer de commune de dimanche pour pouvoir voter, sinon c'est mort. Pas de news pour le moment. Ouais, je pense que ça va être dur, mais tu peux retourner à ton ancienne adresse. Tu fais un pèlerinage. Et donc, ouais, certains indicateurs clés du climat. Donc, vous voyez que là, on a les émissions de gaz à effet de serre sur une période donnée, 2010, 2019 et 2013-2022. Et vous voyez que ça reste à peu près la même. Ça c'est quand même un truc qui n'a pas été souligné par tout le monde et c'est assez intéressant. Hein. En plus, ils nous ont fait des. Vous voyez, si vous allez sur le site principal, attends, je vais vous mettre ça, hop. Ils ont fait un tableau comme ça où on voit les différents indicateurs et on a même des trucs qu'on peut bouger et tout, c'est cool. Et là, on a les émissions nettes de CO2 et ça, c'est assez intéressant quand même parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois avec notamment la possibilité de passer un pic et c'est un truc dont on parle pas trop souvent. Et là, vous voyez qu'il y a une forte augmentation des émissions nettes de CO2 depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 2000. Et là, on est quand même sur une stagnation depuis quelques temps. Si vous regardez entre 2023 et 2013, on a pris quoi? On a pris une tonne, alors que si vous regardez entre 2013 et 2003, on en a pris 39, on en a pris 6, quoi. Et si vous regardez 2003 et 93, j'ai déjà oublié de quantifier, bon, on en a pris 5-6. Donc on est sur une forme de stagnation. On espère que quand il y aura une réactualisation dans quelques années, on verra que on sera plus bas que l'itération précédente. Donc ça, c'est la relativement bonne nouvelle. On est un peu sur ce plateau, on espère descendre rapidement. Après, il faut quand même se rappeler que tant qu'il y a des émissions nettes de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, hein, parce que c'est un gaz à effet de serre qui reste longtemps dans l'atmosphère, tant qu'il y a des émissions nettes positives de CO2, on augmente la concentration, et c'est ça qui a un effet sur le climat. Donc si on stabilise les émissions, bah, on continue de réchauffer la planète. Ce qu'il faut faire, hein, c'est faire tomber ça à zéro, ou au moins la partie CO2. Sur les autres forçages, c'est un peu compliqué, parce que ce n'est pas les mêmes inerties, mais la partie CO2, il n'y a pas trop à discuter là-dessus. Donc là, on voit que en quelques années, depuis la sortie du sixième rapport du GIEC qui avait les données jusque 2019 ou 2020, on a pris hein, la concentration de CO2 a encore augmenté. Comme ça permettra à ceux qui sont nés ces dernières années de pouvoir se situer dans leur bio Twitter en mettant born en XPPM, parce que vu qu'on est pour l'instant sur une croissance monotone, eh bien quand vous dites ça, c'est associé à une année, c'est assez pratique. J'ai jamais fait ça dans ma bio, mais c'est assez répandu. Donc voilà, ça continue d'augmenter la concentration de tous ces gaz à effet de serre, donc ça c'est le problème, et donc évidemment la conséquence c'est qu'on continue d'augmenter le forçage radiatif, le déséquilibre au niveau de l'espace, donc la Terre accumule de l'énergie, et ça se traduit par une augmentation de la température qui a augmenté depuis le sixième rapport, et avec des maximums continentaux qui ont augmenté encore plus. Et donc voilà, c'est une actualisation. Ils ont mis en avant cette part du réchauffement qui est liée aux activités humaines, bah, c'est quasiment tout le réchauffement observé. Hein. Et on voit que ça a augmenté depuis le sixième rapport. C'est pas une surprise. Hein. On continue d'émettre du CO2, on continue d'augmenter la concentration. C'est ce qu'on s'attendait à avoir et c'est ce qu'on a. Et on a une baisse assez importante du budget carbone. Alors c'est vraiment un budget de CO2. Mais là, vous voyez qu'au moment du sixième rapport, il était évalué à 500 milliards de tonnes de CO2 et il n'est plus qu'à 200 parce qu'il y a eu des évolutions dans le calcul et parce qu'on a émis entre les deux. 200 milliards de tonnes de CO2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le budget qu'il nous reste, si on veut avoir 50% de chance de rester en dessous d'un 1,5 degré, c'est à peu près 5 années d'émissions humaines. Et dans les messages clés, dans leur petit dashboard, là, si vous voulez vous dire non, moi je vais rester à 83%. 83% de chances de rester sous 1,5 degré, là vous avez plus que 100 gigatonnes. Et ils ont mis aussi les autres paliers, donc si vous voulez rester, je sais pas, une chance sur deux de rester sous les 2 degrés, vous avez 1100 milliards de tonnes de CO2, ce qui doit faire 27-28 ans d'émissions actuelles. Et donc voilà, il faut réduire les émissions, je ne sais pas si vous le saviez. si vous ne le savez pas. C'est que vous êtes nouveau et bienvenue sur le live. Alors, tout, tout, tout. Ouais, pardon. On regarde des indicateurs clés du climat qui ont été mis à jour. Je regardais un peu le chat. Riddle of Clear a Trim. Compliqué comme nom. Et on regardait ouais, des indicateurs clés du climat et leur évolution. J'étais sur le dashboard. Et du coup, il y a un autre qui est pas mal là. Je sais pas s'ils le mettent. Si je peux le zoomer. Là, vous voyez, c'est l'augmentation de la température globale depuis longtemps. Et vous avez, ils calculent, en fait, ils arrivent à isoler la part qui est due aux activités humaines. Et là, c'est en plus, c'est lissé sur une décennie. Et vous voyez que bah, l'essentiel du réchauffement, c'est dû aux activités humaines. Encore une fois, là, ce n'est pas une grande nouvelle, hein, c'est très clair dans les rapports du GIEC. Et vous voyez aussi que malgré l'année 2023 qui a été très chaude, on n'est pas encore à 1,5 degré. Hein. Vous savez que 2023, si on regarde en annuel, on est très proche. Hein, on a fini à 1,43, voilà, et on a même eu quelques jours au-dessus, etc. Mais si on regarde vraiment sur une moyenne lissée, sur plusieurs, sur une décennie en l'occurrence, on n'est pas encore à 1,5 degré. Et en fait, on atteindra le seuil de l'accord de Paris quand on touchera avec ce 1,5 degré. Et là-dessus, il y a souvent des confusions, hein, donc c'est important de le rappeler. Et après, si vous regardez la variation annuelle, par contre, vous avez une variabilité, il y a des choses là-dedans qui ne sont pas attribuées aux activités humaines, et notamment ce qu'on appelle la variabilité interne du climat et des éléments comme El Niño ou ce genre de choses. Et après, ils mettent aussi, voilà, dans les trucs importants, il y a le fait que El Niño, pardon, que 2023 a été très chaud et qu'une partie, c'est lié à cette variabilité interne du climat, variabilité naturelle du climat. Et notamment, ils évoquent, je pense, ouais, ils évoquent El Niño. Il y a aussi, quand ils ont recalculé la tendance sur les dernières années, on a une tendance au réchauffement qui est plus élevée qu'avant. Sur les dernières années, 0,26 degrés par décade, et si on regarde par décennie, pardon, et si on regarde, parce que je me suis demandé comment ils avaient ça, et si on regarde, c'est calculé sur 2014-2023, donc ils regardent sur une décennie. Voilà, sur la dernière décennie, on est un peu plus chaud que sur 2010-2019, bon, il y a une évolution un peu des méthodes, c'est toujours un peu compliqué, hein, il y a des incertitudes là-dessus, mais on est quand même sur 0,26 par décennie, ce qui veut dire que à ce rythme-là, vous prenez 1 degré en 40 ans. Ce qui est pas mal, c'est un bon score. Du point de vue géologique, c'est peut-être un peu un record aussi. Et bonne question. Alors attendez, je vais juste prendre les questions vite fait. Comment s'articule la consommation de budget carbone et la température de 1,5 degré? Une fois le budget consommé, on est sûr d'atteindre 1,5 degré, mais on ne sait pas vraiment quand c'est. Alors ça il le mentionne rapidement. C'est vrai que c'est une certaine quantité, et puis après, il y a les questions dynamiques qui rentrent en jeu. Et ils le disent. Je l'ai lu. J'avais lu quelque part. Voilà, là, il y a les questions des forceurs non CO2 qui compliquent un peu tout. En fait, ils disent que c'est hyper. Il y a des grosses incertitudes, hein, sur le budget carbone. Et là, on est sur un budget carbone qui est tellement petit qu'il est de l'ordre de grandeur de l'incertitude. Et là, ils mettent. Voilà, notez que ce qui est attendu, c'est que. En fait, quand on aura épuisé ce budget carbone, on ne sera pas encore à 1,5 degré. Il y aura encore quelques années de plus avant d'atteindre 1,5 degré à cause de facteurs de non CO2 et aussi de questions un peu de dynamique. Donc ce n'est pas le nombre d'années avant de toucher 1,5 degré. Je ne sais plus, attendez, je vais juste regarder. Je crois que je vous avais mis de côté un truc sur cette question de quand est-ce qu'on touchera. Est-ce que je vais réussir à ouvrir Twitter? Ouais, je crois que ça a été abordé par Michael Mann et lui il montre des calculs de Copernicus. J'ai pas regardé la publi. Et eux, ils disent bah voilà, si on fait un pari sur. On prend la tendance des 30 dernières années, alors c'est peut-être pas bon, le bon calcul, on a vu que ça a augmenté un petit peu, mais bon, ça, 0,25 à 0,26, ça se discute, mais. Si on prend la tendance des 30 dernières années, en mai 2033, on aura le 1,5 degré, et là on pourra dire. Alors, on pourra dire qu'on a atteint le seuil de la limite de Paris, mais je sais pas si vous connaissez la petite subtilité, c'est qu'en fait, 1,5 degré, c'est pour la fin du siècle, et on peut aussi faire des scénarios avec dépassement, on appelle ça. Donc en fait, on passe au-dessus de 1,5 degré, et on redescend avant la fin du siècle, et là, techniquement, on respecterait l'accord. Bon, il y a plein de subtilités. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas encore à 1,5. Hein, quand on parle de ce seuil de 1,5, c'est en moyenne. Et on épuisera le budget carbone dans 4 ans, mettons 2028, et puis on touchera en 2033, quoi. C'est un peu la logique, il y a un décalage. Alors, Guillaume Eiffert nous demande 1 degré en 40 ans, c'est beaucoup plus rapide que les dernières augmentations. Je suppose. Alors, je pense que tu fais référence aux périodes glaciaires interglaciaires, et c'est vrai qu'un réchauffement, une sortie de période interglaciaire, c'est assez rapide. Alors, je l'enseigne et je vais te répondre de mémoire, mais je crois que de mémoire, la transition, elle se fait. On prend à peu près autour de 7, 5, 6, 7 degrés de température globale en un peu moins de 10 000 ans, mettons en 7 000 ans. Donc moi, l'ordre de grandeur que je retiendrai pour une sortie de glaciation, c'est 1 degré par millénaire. Et là, 1 degré en 40 ans, c'est 2,5 degrés par siècle, c'est 25 degrés par millénaire. Alors, on ne va pas prendre 25 degrés en un millénaire, mais c'est pour comparer les deux. Donc on est sur un rythme au moins d'un ordre de grandeur supérieur à une sortie de glaciation, qui est déjà un épisode géologique brutal par rapport à d'autres évolutions, quoi. Donc là-dessus, ouais, c'est très rapide et ça pose des questions. Alors, ça soulève des questions qui sont intéressantes et notamment sur la capacité d'adaptation du vivant. Je peux peut-être toucher un mot de ça parce que je l'évoque dans mes cours, mais je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici. En fait, on a souvent l'illusion ou l'intuition que la réponse des organismes vivants à un changement climatique, c'est l'évolution naturelle. Donc, l'apparition aléatoire de mutations qui sont sélectionnées par l'environnement. Et en fait, ce mécanisme d'évolution naturelle, il est extrêmement lent parce que l'apparition de mutations viables et la spéciation est extrêmement lente. Et du coup, comment le vivant s'adapte quand il y a des changements climatiques importants du type glaciation, déglaciation, il s'adapte en changeant d'aire de répartition. Donc, c'est des migrations qu'on appelle poleward, vers les pôles quand ça se réchauffe, et puis vers l'équateur quand ça se refroidit. Et donc, les rennes qui sont aujourd'hui en Norvège, bah, c'est juste que pendant la dernière glaciation, ils étaient dans le sud de la France ou pas loin, quoi. Et du coup, il y a ces mécanismes d'évolution qui sont limités par la capacité des êtres vivants à se déplacer. Donc, effectivement, quand vous êtes. Je sais pas, un ours polaire adapté au pôle et à la banquise, bah vous pouvez pas migrer vers les pôles. Il n'y a pas de plus au nord que vous, et donc vous disparaissez avec cet écosystème. Vous faites éliminer parce que il y a une variation qui est plus importante qu'avant. Et puis l'autre grand danger dont on parle pas si souvent, c'est que le changement actuel est très rapide par rapport au changement passé. Donc en fait, des arbres pouvaient se déplacer à une vitesse d'un degré par millénaire, c'est pas la même quand c'est un degré en 40 ans. Et on pourrait dire ça de pas mal d'espèces. Et en plus, on peut ajouter à ça qu'on a fragmenté l'écosystème, qu'on les chasse, qu'on les surpêche, qu'ils doivent traverser les routes, etc. Et il y a ces pressions en plus. Mais il y a de grandes chances que la pression du changement climatique actuel soit bien plus grave que des évolutions climatiques passées, simplement, parce que c'est beaucoup plus rapide. C'est vraiment beaucoup plus rapide. Et on pourrait parler des impacts sur les coraux, des impacts sur les plantes, etc. Et c'est pour ça, je sais pas, je crois qu'on en avait parlé dans un live. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui considère que dans la décennie à venir ou les quelques décennies à venir, le changement climatique deviendra la première pression sur la biodiversité, ce qui n'est pas encore le cas. C'est notamment le changement d'usage des sols qui est aujourd'hui la première pression, donc le fait qu'on ne laisse pas de place à l'environnement, quoi. Jacquara. 2. Ce qui va faire disparaître les ours blancs, c'est la concurrence des grizzlies qui remonte vers le nord et ça coupe avec les femelles ours blancs. Alors c'est vrai que ça peut faire des hybrides fertiles qu'on appelle des gros lards. Voilà, c'est la compression de grizzly et polar bear. Et on appelle ça des gros lards. Alors je suis pas sûr que ça soit le bon accent parce que c'est en anglais, mais ça me fait rire. Et donc c'est vrai qu'il y a une hybridation, donc il y a une partie du génome qui restera. Après, ouais, c'est une concurrence avec un ours qui est plus adapté à un nouveau milieu qui est l'absence de banquise. Les ours polaires sont adaptés à la banquise. C'est considéré comme un mammifère marin en fait. Il vit au-dessus de l'océan, donc c'est considéré comme un mammifère marin. Et si vous regardez ours polaire, son nom latin c'est genre Ursus. Maritimus ou un nom comme ça. Donc vraiment, il est adapté à chasser sur la banquise. Il n'y a plus de banquise, ben, il y aura des Ursus Maritimus. Donc l'ours maritime, quoi. C'est fun, non? Donc oui, il n'y a plus de banquise, il y a des ours plus adaptés que lui à un autre milieu, quoi. je ne prendrai pas la pique. Adrien D, bonne question sur l'initiative SBTI. Je pense que ça serait une question plutôt pour Loïc. Je suis pas capable d'y répondre. Je sais pas du tout. Et après, il y avait une question sur est-ce qu'on a cet indicateur sur les continents? Aïe, 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 est-ce qu'ils l'ont mis sur les continents? J'ai pas l'impression. Pourtant, ils l'ont dans le. Ils l'ont dans le papier. Ils l'ont dans le papier. Plou, 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 plou. Climate and weather extreme. Donc là, ils ont regardé même la température maximale annuelle sur l'ensemble des continents. Et donc là, on voit qu'il y a une augmentation qui est en plus plus rapide que le changement climatique. Donc je ne sais pas si ça répond. Annuel maximum température en excluant l'Antarctique. Ouais, je sais pas si ça répond, mais je pense que l'idée de cet indicateur, c'est que bah, ce qui peut nous faire mal, c'est pas juste la moyenne. La moyenne, c'est intéressant aussi, mais ça peut être des éléments extrêmes qui arrivent à un moment donné et bah, des épisodes de canicule. De canicule. D'ailleurs, si je faisais vraiment une veille, etc., on aurait sans doute parlé de la canicule en Inde, là, qui a l'air d'être assez effroyable. J'ai vu quelques trucs sur les gens qui mouraient dans la rue et qui étaient directement mis sur des bûchers et tout. Je sais pas si vous avez suivi un peu cette actualité. Je l'évoque de loin parce que je l'ai juste vu passer. Je suis désolé. Mais un truc assez effroyable. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Si, je voulais quand même vous dire que je suis un peu fatigué, mais ça a bien travaillé. Et nouvelle vidéo demain, normalement. Demain, début d'après-midi, on sort vidéo en deux parties que j'ai fait avec Jean-Loup de la chaîne Après la bière. Et du coup, ça va être cool. On verra comment ça réagit. Je suis assez curieux. Je sais pas. C'est pas une vidéo d'actualité, ça c'est sûr. Je serais assez curieux des retours. Je sais pas trop quoi en penser. Mais après, c'est un peu toutes les vidéos à ce stade-là. On est plus sur un délire proche du taux de retour énergétique que sur, que sur des vidéos très appliquées. Et c'est quoi le sujet Aga SDLT, c'est sur la thermodynamique, mais on est allé assez loin quand même. On est allé assez loin, donc thermodynamique en vrai c'est assez cool. On va en toucher deux mots parce qu'après je vais vous parler d'un sujet assez proche. Mais c'est sur la thermodynamique et les implications un peu sur la manière dont on parle de la transition et aussi certains messages ou certaines intuitions. Qui sont erronés, certains usages de la thermodynamique qui sont un peu déplacés. Alors, ce que je peux faire, si vous voulez, attendez, je vais faire un sondage parce que si vous voulez, Si vous voulez, faut quand même que je fasse un sondage, sinon c'est pas sérieux. Attendez, je viens d'être banni de mon chat là? C'est quoi ce bordel? J'ai dû faire une fausse manip. Ouais, je pense qu'il y a eu un bug. Parce que je vous vois. Attendez. Ah non, c'est quelqu'un. Ah, c'est quelqu'un qui a mis un message de spam. Ah, c'est très drôle ça. Ok. Je vais vous mettre un petit sondage. Et le petit sondage, ce sera comme la dernière fois. J'ai refait quelques photos. Alors, c'est pas mes photos de vacances, mais j'ai fait quelques belles photos. Donc, si vous voulez une petite parenthèse avant de s'infliger de la thermo, je peux vous montrer des photos. Mais il y a un peu des serpents dedans. Donc, faut pas avoir trop peur des serpents ou alors vous fermez les yeux. Mais gros spot quand même. Donc, je peux vous raconter un peu ma vie 36-15 my life biodiversité et vous montrer quelques prises. Et Adrien D, ouais, j'ai pu échanger par visio avec les shifters, Norway notamment. Et je crois qu'on était d'accord pour se dire que on n'était pas d'accord quoi. Ça a duré, je sais pas, peut-être 3 heures, mais on reste pas d'accord. Et en fait, plus ça va et plus je discute de sujet, et moins je crois que le taux de retour énergétique est une métrique pertinente quoi. J'ai vraiment de plus en plus de mal à comprendre comment certains lui font dire ce qu'il dit. Donc, je suis même pas à, ma formule, elle est préférable, etc. Enfin. Peut-être un peu, hein, je dis pas que toutes les définitions sont équivalentes, mais je suis de plus en plus sceptique vis-à-vis de cette approche. Faut-il bannir l'utilisation du terme consommation d'énergie? Ah, c'est compliqué, hein. Je pense que dans le langage courant, c'est pas évident de s'en sortir. On pourrait utiliser d'autres termes, genre consommation d'exergie et tout, et voilà. Consommation d'exergie, ça passerait. Mais c'est vrai que ces questions de termes. Ouais. Je pense même pas qu'on le mentionne. J'avais mentionné ça dans la première vidéo que j'avais faite sur l'énergie. Alors, est-ce que je peux vous montrer. Attendez, faut que je vire toutes les cochonneries là. Et faut que je vous montre. Alors, comment je peux faire pour spoiler le moins possible? Petit, 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 petit. Ouais, on va reprendre sur consommation d'énergie après, mais je vous montre rapidement mes photos parce que vous avez l'air d'être chaud. Est-ce que ça marche? Ça fonctionne. Alors, ouais, petit contexte, je suis pas très loin d'une forêt. Et j'ai repéré un spot et j'essaye de courir un peu. Alors, je ne vais pas vous faire croire que je suis pas sportif, hein. J'essaie juste de survivre péniblement jusqu'à mes 45 ans. Et du coup, je me mets un peu à courir. Il y a plusieurs fois où je suis sorti du chemin et j'ai trouvé un spot qui me paraît vraiment pas mal. Au passage, j'ai chopé des tiques et je me suis fait arracher les jambes par des plantes que je ne connais pas, donc il n'y allait pas en short. Et toujours est-il que très beau spot, pas très loin des chemins, mais il faut se battre pour y aller. Et du coup, j'y étais pour photographier ce que je cherchais depuis longtemps. Et en étant là-bas, il y a eu une buse qui s'est posée dans la chaîne. Donc là, c'est vraiment juste un coup de bol. Jolie buse. Je sais pas si vous voyez, mais là, elle fait un petit 180 degrés avec la tête quand même. C'est pas mal. Moi, j'y arrive pas. Non, définitivement, j'y arrive pas. Donc là, c'est un peu la mise en bouche avant la proie de choix. Mais chouette spot, ouais. En fait, c'est un endroit où ils font un peu de ménage parce qu'il y a des lignes qui passent et du coup, il n'y a pas trop d'arbres. Donc, elle se met sur un des rares arbres qui reste et bam. Et j'y étais pour ça. J'y étais pour ça. Parce que j'ai réparé plusieurs fois des couleuvres à collier. Et ça fait très longtemps que j'essaye de prendre en photo quand je vais en vacances. Et donc là, j'en ai pas loin de chez moi. J'en ai pas loin de chez moi. Et c'est un spot, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Il y a un moment où, en fait, je me suis dit, là où j'ai le plus de chances de les voir, c'est fin d'après-midi quand il y a eu plein de soleil, parce qu'elles vont dormir un peu au soleil, elles vont pas être hyper, hyper réactives. Et elles seront dehors et à découvert, quoi. Et j'en ai vu au moins 6 différentes autour du même point d'eau. Je ne sais même pas comment c'est possible. Est-ce qu'elles se regroupent pour quelque chose? Est-ce que c'est la couvée de l'an dernier? Je ne sais pas du tout. Non, alors les couleuvres à collier, ça doit être un des serpents les plus grands d'Europe, je pense. Donc c'est des couleuvres, elles ne sont pas venimeuses. Et souvent, elles vont être dans l'eau. Elles vont être dans l'eau et à collier. On va le voir parce que j'ai les meilleures photos. On va voir pourquoi c'est à collier. Mais ça peut être assez grand. Ça peut être assez grand. On regardera Wikipédia après. Et donc là, elle fait sa coquine un peu. Elle est dans les herbes là. Donc j'ai pas le meilleur point de vue. Elle a l'œil un peu vitreux. Je me demande si c'en est pas une qui est proche de sa mue ou qui en sort. Parce qu'elle devient quasiment aveugle pendant la mue. Donc là c'est la même. Et en fait, là, j'ai. Alors déjà, je sais pas si vous vous rappelez, une fois j'ai un nouvel objectif là, Alpha 7R3 avec un téléobjectif, hein, j'ai un peu investi. Et du coup, c'est vraiment très impressionnant, hein. Ce qu'il y a en termes de détails, c'est je reste assez épaté, hein, de pouvoir voir ça. Et là, j'étais à peut-être 1 mètre max. Je m'avance tout doucement, elle me tolère à peu près avant de filer. Et quand tu regardes au téléobjectif, tu es hyper zoomé, tu la vois respirer et tout, c'est vraiment impressionnant. Alors je vous montrerai, j'en ai d'autres des mieux, mais là c'est un petit plus classique, un petit lézard des murailles, et je l'ai pris juste pour un truc. Bon, c'est encore plus dégueu que les couleuvres, mais ça, je suspecte très très fort que ce soit une tique, donc je ne suis pas le seul. En avoir ramassé dans la zone, mais en même temps, on est sur un étang, j'ai élevé un chevreuil et tout, je sais qu'il y a des bêtes qui passent. Et la question pour le téléobjectif, c'est un 150-600 mm de Sigma. Le lézard, ouais, il est assez fat, et celui-là, je pense qu'il a déjà rencontré des prédateurs parce que, je sais pas si on voit, mais ouais, il a la queue là qui a été un peu raccourcie, et ce qui a repoussé, ça n'a pas le même diamètre. Alors, il est un peu fat, mais c'est les lézards du muraille comme ça, quand ils se mettent au soleil, ils ont tendance à s'aplatir aussi. Donc faut voir quand ils courent. Pour avoir plus de surface, ils font un truc vraiment, ils étalent leur corps, c'est assez marrant. Donc voilà, petite tique. Et après, je vais vous montrer les plus belles photos en dernière. Et donc ouais, c'est cool à voir à collier. Vous voyez, derrière la tête, là, elles ont des écailles blanches qui forment un collier. Et là, bah, en général, quand vous les surprenez près de l'eau, elles vont fuir par l'eau. Elles nagent beaucoup, beaucoup plus vite que moi. C'est assez élégant, hein, un serpent qui nage. Enfin, c'est subjectif tout ça, mais moi, je trouve ça assez élégant. Alors attendez, je vais essayer d'aller vite. Voilà. Je voulais vous montrer d'autres trucs. Dans la zone, il y a aussi des très belles libellules. Et là aussi, sur un téléobjectif comme ça, hein, c'est régal quand même. Donc, libellules, voilà, ces arthropodes qui se posent en gardant les ailes déployées. Et il faut pas confondre avec un autre ordre qui est celui, moi j'appelle ça des demoiselles, où elles replient les ailes en se posant. Souvent elles ont des ailes noires, elles sont un peu plus petites. Donc là, beau spécimen, belle couleur. Et il y en a aussi des jaunes dans le coin qui sont assez stylés. J'aime bien le fond sur la feuille morte et tout, j'étais assez content. Et donc voilà, première fois que je vois la couleuvre. C'était celle-là. Celle-là, à mon avis, c'est une adulte. Et on voit qu'il y a des écailles qui sont un peu plus stylées. Parce que celles que j'ai vues quand elles étaient nombreuses, c'est plutôt des petites qui doivent avoir, je ne sais pas exactement, mais elles font pas leur taille d'adulte. Donc je dirais 1 an, 2 peut-être. Là, c'en est une qui dormait sur la mousse tout près de l'eau, quoi. Par contre, je suis deg quand elles dorment, elles ont tendance à enfouir leur tête. Je pense que la tête est là ou là. Et du coup, voilà, ça fait un bandeau de Moebius, quoi. Après là, on rapproche quand même du stylet. On rapproche du stylet. On a la belle. On pourrait presque me voir dedans. Et je suis là avec mon téléobjectif. Ah, il y a moyen en plus. Il y a moyen que ce soit moi, ça. C'est très drôle. Donc voilà, belle couleuvre à collier, là, collier blanc. Petite taille, je sais pas, elle devait faire 40, 40, 50 cm, je pense. Et puis, meilleure photo, je trouve. En tout cas, c'est une des meilleures que j'ai faites. Clairement, elle s'est levée, elle n'était pas très contente. Je l'ai réveillée, elle a commencé à filer dans l'eau, et puis elle s'est retournée, elle a fait « What the fuck? C'est qui ce gars? C'est un humain, j'ai jamais vu ça. » Et elle est revenue comme ça sur le bout de bois, elle m'a regardé. Elle a sorti la langue comme ça, elle... je sais pas ce qu'elle faisait exactement, je sais pas si elle me sent ou quoi, je sais pas si je me vois. Et après, elle a filé dans l'eau, mais il y a eu quand même ce moment où je l'ai juste grâce à sa curiosité, quoi. On a même le reflet des écailles de son cou. On a même son reflet. Bon, la langue bouge très très vite, donc je l'ai pas parfaitement nette, mais voilà, j'étais refait, sachant que j'y ai été plusieurs fois et mine de rien, elle file hyper vite. Et en général, les serpents, quand ils sentent la vibration dans le sol, ils filent. En fait, si vous avez des serpents autour de vous, ça va être assez dur de les voir en général. Faut le vouloir, quoi. Sauf si elle est endormie, sauf si elle mue, sauf si elle est un peu malade ou what. Mais faut le vouloir. Et moi, je l'ai cherché, ces serpents, parce que je voulais faire ce type de photo. C'est presque pour ça que j'ai pris un téléobjectif. Et trop content, trop content. Du coup, s'il fait à nouveau vraiment beau en fin d'après-midi, il y a moyen que je repasse sur le spot parce que c'est pas très loin de chez moi. Mais vraiment, j'étais refait. J'étais refait. Donc voilà, mini sélection de photos. Et on peut regarder. Elles sentent par la langue. Ouais, c'est possible. Bibicarbonate, tu dois être discret ou elles sont tolérantes jusqu'à quelques mètres. En fait, ça va dépendre des serpents et je pense que ça dépend un peu si elles sont en train de pioncer et de digérer. Moi, j'essaie d'avancer le plus doucement possible. Et c'est surtout vrai quand t'es très proche, quoi. Et en fait, je fais des shots de sécurité et je m'approche un petit peu. Et je fais des shots de sécurité et je m'approche un petit peu. Donc, les premiers, en général, ils sont au milieu des herbes, ils sont un peu moches. Après, celle-là en particulier, parce que souvent c'est très dur, hein, les serpents, je trouve. Celle-là en particulier, elles sont pas si farouches que ça, quoi. Elles détalent à. Je sais pas, 1,50 m, et si elles sont en train de pioncer, ça peut être moins d'un mètre. Et là, typiquement, elle s'est retournée, elle est revenue, pas par curiosité, je crois. Donc je pense que c'est des individus assez jeunes qui ont peut-être pas vu trop d'humains. Ou... 12 pales au propre, t'as du mal à voir l'échelle. Non, il n'est pas très grand. Je dirais 40 cm, 50 max. On va regarder, c'est pas des adultes en tout cas. 40 cm, même plus que 50. Donc c'est pas très grand. Par contre, il y a au moins une adulte autour, hein, qui est plus grande, qui est plus large, mais qui file aussi un peu plus vite. Donc le gluon du trou, la vivacité est corrélée à la température, il me semble. Ouais, c'est complètement possible. Ouais. Et mise au point, ouais, c'est pas facile, surtout que bon, quand elle commence à filer, c'est rapide, hein. Là, elle s'est retournée, elle m'a regardé, mais en vrai, j'ai eu le temps de faire une photo et demie, quoi. J'ai pas encore le réflexe de passer en mode rafale, faut vraiment que je me trouve un raccourci pour ça. Et après, sur la mise au point, il y a un truc qui est hyper efficace sur ce boîtier que j'avais pas avant, qui est que je peux faire. Parce que souvent, ce qu'on a, c'est manuel ou automatique. Et manuel, des fois, faut y aller, quoi. Ça peut être compliqué. Et là, il y a un mode entre les deux où, en fait, je fais la mise au point automatique, donc en enfonçant à moitié le bouton. Et après, faut un peu d'agilité, mais je peux tourner la bague en gardant le bouton sur l'automatique. Et là, je passe en manuel. Donc, ça permet d'avoir l'entre-deux. En automatique, je suis quasiment sur la cible et je peux ajuster très rapidement pour avoir l'œil net, typiquement. Et encore, l'automatique normalement se fait sur l'œil, mais vous voyez, je peux ajuster très rapidement avec la bague, ce qui fait que je commence à tenir un peu le boîtier. Donc voilà, je me la pète. Non, en vrai, je voulais vous partager ma joie. J'étais très content de prendre cette photo et je suis content d'avoir ce spot. Et oui, je me souviens qu'on jouait dans des terriers avec mon frère étant gamin, journée chaude, fin d'après-midi, je tombe nez à nez avec deux serpents, traumatisé depuis, je les approche plus. À moins de 50 mètres. Mais ils t'ont fait mal, Ewind, à ce moment-là? Tu t'es fait mordre? Amiram74, vu le mois dernier, une couleuvre par chez moi, j'ai dû la surprendre parce qu'elle s'est redressée et s'est lancée vers moi avant d'étaler. Ah, elle a essayé de te faire peur. C'était quoi comme couleuvre? Pff, Franchement, la plupart des serpents vont avoir peur de vous. Ouais, il y a une mise au point, il y a une mise au point animaux qui fonctionne pas mal, mais tu vois, genre, qu'est-ce que je peux avoir? Quand je prends les libellules, par exemple, ça joue à pas grand-chose, hein, parce que téléobjectif, la profondeur de champ, elle est vraiment limite, et si tu veux l'œil net, c'est pas mal d'avoir ce truc entre les deux. Alors, je crois qu'il y a des vipères dans la forêt près de chez moi. Je suis pas très très loin de. Bon, je suis dans le même département que Fontainebleau. Et Fontainebleau, je sais qu'il y a des vipères. Donc, je pense qu'il peut y avoir des vipères dans cette forêt, j'en ai encore jamais eu. Et couleuvre à collier, c'est un peu l'animal que je cherchais quand même. Et je connais un peu son l'environnement qui lui plaît, donc c'est plus facile, je pense, de les trouver. Et après, ouais, on peut peut-être regarder vite fait couleuvre à collier. Wikipédia saura vous renseigner mieux que moi. Mais Natrix. Je sais pas si c'est le plus grand d'Europe. Europe du Nord. Brun verdâtre. Ouais, là, c'est une adulte aussi. En fait, sur les adultes, les écailles sont un peu plus. Ont des dessins un peu plus personnalisés, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Là, vous voyez, enfin, sur la photo que j'ai prise, elles n'étaient pas du tout marquées, les écailles. Donc, c'est vraiment le collier, un caractéristique. Taille varie de 65 cm à 1,40 m, les femelles étant plus grandes que les mâles. Il est non venimeux et inoffensif pour l'homme. L'espèce est ovipare et a une espérance de vie de 25 à 28 ans. Jamais j'aurais parié là-dessus. J'aurais parié sur moi. Il vit généralement non loin des cours d'eau, des cours et plans d'eau, ouais, où il trouve des amphibiens dont il se nourrit principalement. Il peut également chasser des poissons et des micro-mammifères, pardon. Clairement, moi, je suis sur un spot où elle mange beaucoup de grenouilles. Il y en a vraiment beaucoup cette année. Donc, je pense que, elles peuvent se faire plaisir. Des sous-espèces. Par le passé de la préhistoire à une époque très récente, la couleuvre à collier a été consommée par l'homme. C'est nous le prédateur pour elle en fait. Elle n'est pas considérée comme menacée, même si localement certaines sous-espèces ou populations sont en danger d'extinction. Elle fait l'objet de mesures de protection dans certains pays où elle vit, notamment en Europe où elle est protégée par la Convention de Bonn. Alors attendez, je vois plus vos commentaires. Je vais me remettre correctement. Donc il y a quelques belles photos aussi hein, de spécimens plus gros que moi. Moi, ça reste des petits spécimens. La couleuvre à collier est un serpent assez long, mince quand elle est jeune et au corps plutôt robuste à l'âge adulte. Moi, ils sont minces. À cet âge, ces dernières mesurent entre 85 et 1,40 m, mais elles peuvent exceptionnellement atteindre la taille de 2 mètres, tandis que les mâles ont une taille comprise entre 65 et 85 cm. J'en ai déjà vu des très très jeunes, des spécimens, donc je suis sûr que ce n'est pas des spécimens de cette année, parce que quand ils sortent, ils sont vraiment petits. Après, je ne saurais pas vous dire s'ils ont 1 an, 2 ans ou 3 ans. Pourquoi ils sont autant au même endroit? Est-ce que les couvées, je sais pas si on dit comme ça. Est-ce que d'une génération ils restent au même endroit pendant quelques temps? Et ça c'est ce que je vous disais. Ça c'est un individu qui a mué ou qui est près de muer. On va regarder ce qu'ils disent. Quand un individu est sur le point de muer, son œil devient bleuté. Donc là vous voyez, il y a vraiment ce truc. Et celle que j'ai prise dans les herbes, elle avait un peu l'œil flou que n'ont pas les autres. Donc elle se rapprochait peut-être de cette situation. Et vous voyez qu'il y en a qui sont très noirs et d'autres qui sont plutôt bruns ou olivâtres. Est-ce qu'ils mettent en combien de temps elle devient adulte? Rassemblements prénuptiaux regroupant de nombreux individus ont lieu. Est-ce que c'est des jeunes mâles? Parce qu'il y a clairement, il y en a clairement une qui est beaucoup plus dure à voir mais qui est plus massive. Donc je dis une parce que la femelle est plus grosse et je suspecte que ça soit une femelle. Elle m'a pas laissé approcher assez pour vérifier. Ouais, je saurais pas vous en dire plus. Je suis pas naturaliste, je suis juste intéressé, passionné. Et ouais, c'est surtout un. Je pense que si vous vous promenez, vous avez plus de chances de la croiser dans l'eau. Parce qu'elle va vite s'y réfugier. Et par contre, quand elle nage souvent avec la tête à la surface, comme sur la photo que je vous ai montrée. Et ça, vous pouvez la voir filer. Et d'ailleurs, un truc important que vous pouvez retenir, et je pense que je dis pas de bêtises, c'est que c'est qu'en France, vous ne pouvez pas avoir de serpents venimeux dans l'eau. Pour moi, tout serpent que vous verrez en train de nager, ça sera une couleuvre. Ça peut être la couleuvre à collier, ça peut être aussi ce qu'on appelle une couleuvre vipérine. J'avais fait des photos une année qui ressemblait à ça. Qui est une couleuvre vraiment qui est très très forte pour choper des poissons et qu'on appelle vipérine parce qu'elle a une tête qui fait un peu penser à une vipère. Elle a un peu plus le V et souvent elle est confondue avec des vipères, ce qui fait qu'elle se fait matraquer pour rien quoi. Et donc là on est encore sur une couleuvre, on est sur une couleuvre qui est plus petite que la couleuvre à collier. Voilà, 70 cm max et qui est beaucoup plus âgée. Est-ce qu'ils le mettent, je pense Nager, plonger. Et quand elle plonge, j'en ai déjà observé qu'il reste très longtemps au fond. C'est assez étonnant. Et elle est assez balèze pour choper des poissons. C'est assez impressionnant. Donc si vous voyez des serpents dans l'eau, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Peut-être qu'une vipère, ça sait nager, mais elle va pas rester dans l'eau, quoi. Elle va traverser. Alors que couleuvre à collier et couleuvre vipérine, elles peuvent rester dans l'eau et c'est plutôt leur élément, quoi. Louis Pouzin, j'en ai pêché une de couleuvre vipérine. T'en as pêché une comment? Pas loin des piscines, ouais, c'est pas étonnant. Ouais. Merci, Gifureux. Ok, donc voilà, je continue de faire joujou. C'est une autre manière d'admirer la nature. Bon, j'ai aussi des photos un peu de fleurs, etc. Mais couleuvre à collier, je t'ai refait quand même. C'est pas si souvent qu'on peut en voir. Voilà. J'aime bien les serpents. Bon, par contre, j'ai aussi chopé des tiques dans la zone, des tout petits là, qui font moins d'une tête d'épingle, qui sont absolument insupportables à retirer, parce qu'il n'y a aucune prise, quoi. Vous savez qu'il y a un tic, il faut faire tourner comme ça jusqu'à ce qu'il lâche le truc. Et ouais, petit chiant, ça peut transmettre une borréliose, la maladie de Lyme, qui est une vraie saloperie. Hein. Vous l'avez pas systématiquement si la tique est infectée, elle n'est pas systématiquement infectée, il faut qu'elle ait récupéré ça sur un animal avant vous, mais la tique passe par plusieurs phases. Donc en fait, si vous avez une tique relativement grosse, elle s'est déjà alimentée sur un autre organisme qui peut être contaminé. Donc c'est un problème, hein. C'est un problème en France, c'est un problème aux États-Unis, cette maladie-là. Et les tiques, je suis désolé, mais on peut apprécier la biodiversité, mais je doute qu'on peut étendre cette appréciation à ces saloperies. On avait coupé la ligne. Ah ouais, mon père m'avait dit que j'ai dû pêcher le poisson qu'elle a chopé ensuite. Bah ouais, plus facile. donc voilà, non au tic. Non au tic. Ok, Planète Terre de BBC. Je regarderai. Moi, j'aime bien regarder les documentaires. J'arrive pas toujours à convaincre madame d'en regarder, mais j'aime bien regarder les documentaires. Et moi, j'avais bien aimé les deux séries sur Netflix, là, Our Planet. Notre planète, ils en ont fait deux. J'avais trouvé ça bien. Assez violent et déchirant, le moment où le petit baleineau se fait tuer, là. Mais image assez incroyable. Donc voilà, le petit point biodiversité. Et maintenant, je voulais vous parler un petit peu de thermo parce que. Parce que ça me demande un peu moins de préparation déjà. Parce que j'ai passé ma vie dans la thermo ces derniers mois, comme vous allez le voir dans les vidéos qui sortent demain et que j'espère vous apprécierez. Parce qu'on y a mis des efforts et de l'énergie. Et je pense qu'on a fait quelque chose qui est pas vraiment vu ailleurs. Et c'était intéressant en vrai, c'était intéressant. Et je dis ça alors que la thermo, c'était pas vraiment mon dada. Hein. Prépa, j'ai pas kiffé. École d'ingé, j'avais plusieurs cours de thermo, mais j'ai été au rattrapage de thermostat. Et là, j'y allais en sachant une partie de ce que j'avais trouvé, mais j'ai aussi appris pas mal de trucs. Ah oui, je riff 565, les morses qui tombent. J'avoue que c'était assez hardcore aussi. La nature, c'est hardcore. Alors, la thermo. Oui, il y avait question tout à l'heure de quel était le problème avec la consommation d'énergie. Ben, c'est parce que l'énergie se conserve. Donc, en fait, ben, on ne peut pas la consommer. On ne la fait pas disparaître. Tout ce qu'elle fait, c'est changer de forme. Par contre, il y a vraiment un truc qu'on consomme qui est cette électricité dans mon ordinateur, il va finir sous forme de d'énergie thermique, quoi. On va avoir une conversion de travail vers chaleur. Et cette énergie thermique, je ne peux plus rien en faire, je ne peux plus faire tourner mon ordinateur. Donc il y a vraiment un truc qui est détruit, ou il y a un truc qui est consommé. Et ce qu'on pourrait dire qu'on consomme, c'est l'exergie, c'est la partie utile de l'énergie, c'est ce qu'on peut, ce avec quoi on peut faire un travail. Et donc si vous aimez bien ces questions et ces notions, hein, ça va être le cœur de la première vidéo, ça va être ça, et ensuite on applique ça au système Terre, et on va assez loin. Je riff 565, moi c'est une des seules matières où je m'éclatais. Bah, stylé. Ah, Gifereux 2018, tic, érythème migrant du genou à l'aine, 30 jours d'antibio, la violence. Bah, au moins, t'as su le voir et t'as su être sous l'antibio, parce que si tu fais pas attention et que tu développes maladie de Lyme, ça a pas l'air cool et ça a l'air un peu aléatoire. Donc, la thermo, qu'est-ce qui m'amène à vous parler de thermo ce soir? Ce qui m'amène à vous parler de thermo ce soir, c'est une vidéo qui a été postée sur le Discord et qui va permettre de parler d'un sujet assez intéressant. C'est un sujet dont on a déjà parlé ici, mais on va regarder un papier qui permet de, je pense, de comprendre des choses assez fondamentales. Romifla02, j'ai retenu la phrase d'un prof qui m'a dit une fois, on ne parle d'énergie que lorsqu'il y a transfert. Et effectivement, je crois qu'on le mentionne rapidement dans la vidéo, c'est pas un point central, mais c'est vrai que on calcule jamais l'entropie ou l'énergie d'un système. Ce qu'on calcule, c'est des transferts d'énergie, soit des transferts d'énergie thermique, donc ce qu'on appelle de la chaleur. La chaleur, c'est un transfert d'énergie thermique, soit n'importe quel autre transfert qu'on peut qualifier de travail, de l'énergie mécanique, de l'énergie cinétique, ce type d'évolution. Et là, c'est intéressant. Là, ça permet de comprendre certaines quantifications. Ça permet de savoir, bah voilà, vous mettez tant d'électricité dans une bouilloire, de combien l'eau va s'élever. C'est facile à calculer. Et en fait, on sait faire ce type de calcul sur des évolutions. Et c'est pareil pour l'entropie. En fait, on calcule jamais l'entropie d'une pièce. On calcule l'augmentation d'entropie dans une transformation. Donc, ouais, c'est quelque chose qu'on aborde rapidement demain. Et en fait, ce que montre ce que montre ce diagramme, c'est, enfin, cette vidéo s'intéresse à l'inefficacité en fait de nos technologies de ressources fossiles, et notamment au fait que si vous regardez les ressources fossiles et si vous tracez ce genre de diagramme de Sankey, je vais essayer de le mettre en plein écran, il n'est pas hyper net. Vous voyez là, vous avez l'éolien, le nucléaire, l'hydroélectrique, non pardon, le photovoltaïque, le nucléaire, l'hydroélectrique, l'éolien. Et là, vous avez le gaz, qu'on va arrêter d'appeler naturel, hein, c'est trop leur faire une fleur, le gaz fossile, le charbon et le pétrole. C'est pour les États-Unis. Et vous voyez que si on va jusqu'au service énergétique, donc en fait pour les transports, ça va être quoi le service énergétique? Ça va être le déplacement de la voiture. Et votre voiture a un rendement qui n'est pas terrible. Si on va jusqu'au service, on se rend compte qu'une grande partie des ressources fossiles, en fait, ils finissent où? Ça finit sous forme d'énergie qui est perdue. Donc là, ça va être, en fait, là, techniquement, ça va être du travail. Et là, ça va être de la chaleur. Ça va être juste un transfert d'énergie thermique. Et c'est intéressant d'avoir cette notion, hein, que les ressources fossiles et les technologies des ressources fossiles qu'on utilise sont extrêmement inefficaces parce que ça permet de penser un peu mieux la transition. Et pourquoi ces ressources fossiles sont inefficaces? Parce que ce sont ce qu'on appelle des machines thermiques. Donc, en fait, la notion fondamentale en thermodynamique, la différenciation fondamentale qui est faite, c'est la séparation entre la chaleur et le travail. La chaleur, c'est un transfert d'énergie thermique, et le travail, c'est n'importe quel autre transfert d'énergie. Et pourquoi on fait ce transfert absolument fondamental? Parce que ce que se sont rendu compte les personnes qui ont construit la thermodynamique il y a déjà quelques temps, hein, c'est que on peut convertir intégralement un travail en chaleur. Hein, l'exemple qu'on pourrait avoir, c'est une résistance, quoi. Une résistance électrique, vous passez un courant dedans, bah, toute l'énergie électrique qui va être dissipée finit sous forme de chaleur. Si vous me dites j'ai mis 1 kWh d'électricité dans ma résistance ou dans mon radiateur électrique, bah, je sais que vous avez 1 kWh de chaleur grâce à la conservation de l'énergie. Donc le travail peut être intégralement transformé en chaleur. Par contre, Par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est vraiment ça, le truc fondamental de la thermo, c'est tout le travail peut être transformé en chaleur, mais toute la chaleur ne peut pas être transformée en travail. Et les premiers travaux, notamment de Sadi Carnot, ont montré que le rendement maximum d'un moteur thermique, d'une machine thermique, quand vous faites du travail, donc le rendement, ça va être quoi? Ça va être le travail obtenu divisé par la chaleur que vous avez fournie. Bah, ce rendement, il est inférieur à 100% et il va dépendre de la source froide et de la source chaude. Et donc, en fait, à chaque fois que vous transformez de la chaleur en travail, donc que vous produisez l'électricité avec du charbon, que vous déplacez une voiture avec du pétrole, que vous, je sais pas, que vous avez un générateur. Un générateur diesel, enfin, à chaque fois que vous avez quelque chose qui transforme de la chaleur, un transfert d'énergie thermique en travail, eh bien, vous ne pourrez récupérer qu'une fraction de la chaleur sous forme de travail. Au maximum, hein, parce qu'en plus, tout ça est imparfait, donc il y a des pertes en plus. Et donc, finalement, une des pires manières, si vous réfléchissez en termes de quantité totale d'énergie qu'il vous faut, une des pires manières de faire du travail, c'est avec de la chaleur. Et donc, c'est en brûlant des ressources fossiles. Et il y a vraiment cette inefficacité. C'est pas juste une question de, on peut améliorer ces technologies. Non, au bout d'un moment, on se heurte à un mur thermodynamique qui est le second principe. Ça, c'est une implication directe du second principe. Comment je peux le dire autrement? Comment je peux le dire autrement? Si vous me donnez n'importe quoi, vous me donnez de l'énergie cinétique, voilà, vous me donnez de l'électricité qui vient d'une éolienne, et derrière j'ai un moteur électrique, le rendement maximum prévu par la thermo, c'est 100%. Si vous me dites, ah bah j'ai un truc là que je peux faire brûler à 300 degrés, bon c'est le calcul de la vidéo donc je sais la réponse, et il fait 20 degrés dehors, et dehors c'est ma source froide quoi. Eh ben, le rendement maximum, ça va être 50%. C'est vraiment, vous vous mangez la thermo en pleine tronche. Et donc, les bases de la thermo, le message principal de la thermo, c'est les machines thermiques, c'est vraiment pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Alors, GRIF 565, du coup, ça sert à rien de payer pour des radiateurs électriques plus efficaces. Alors, il y a quelques subtilités là-dedans. Ça dépend comment tu considères l'efficacité. Parce que si c'est vrai que si tu réfléchis à la conversion électrique vers électricité, électricité vers chaleur, en fait, tu seras toujours à 100%. Sauf que ce qui joue sur ton ressenti dans la pièce, ça va pas être juste combien il y a de kilowattheures de chaleur dans la pièce. Et notamment, ce qui va jouer sur ton ressenti, c'est toutes les questions de rayonnement. Et par exemple, ce qu'ils vendent souvent, moi, ce que j'ai, là, j'ai un radiateur nul. Mais dans le salon, j'ai des radiateurs à inertie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la résistance chauffe un truc un gros bloc de fonte qui va être assez haut en température et qui va rayonner. Et du coup, quand tu es en ligne de vue du radiateur, cette chaleur-là est beaucoup plus agréable que juste un grille-pain qui réchauffe l'air. Donc, c'est pas une question de les radiateurs plus efficaces, c'est pas une question de rendement à la conversion, c'est une question de ressenti de température qui est liée un peu à la manière dont nous on sent le. On ressent ça. Je sais pas si c'est clair. Je fais pas de la pub là-dessus, mais. Ether TV, et les services énergétiques, je crois que j'ai raté ta question et du coup, je sais pas trop ce que tu voulais dire. Et du coup, alors, ils montrent un peu ça, ils expliquent un peu ce que je viens d'expliquer ici, et après, ils montrent bah, voilà, les rendements dans des. Là, c'est vraiment des. Génération d'électricité avec du gaz, avec du charbon à 65%. Ils sont sur des doubles cycles, je sais pas quoi, assez performantes, hein, parce que charbon à 65, j'en ai pas vu beaucoup. Ah non, pardon, pardon. 65% de perte, oui, ça je veux bien. Ouais. Les centrales au charbon en Europe, elles sont à ouais, 30-35, et puis en Chine, elles sont plus récentes, elles sont autour de 40, mais effectivement, vous avez des pertes de ces ordres-là. Et je pense qu'il y a des centrales au gaz qui ont des rendements de 60-65% où les pertes sont plus faibles. Mais ouais, en fait, voilà, le charbon, vous en tirez du travail et vous réchauffez pas mal l'atmosphère. Après, ils prennent des exemples. Alors celui-là, je l'ai pas souvent vu et je l'ai pas souvent utilisé. C'est assez marrant. Donc quand vous chauffez avec du gaz, ben, vous vous rendez bien compte, hein, si vous mettez les mains au-dessus ou si vous touchez à la casserole, qu'en fait, il n'y a qu'une partie de la chaleur qui va être cédé à ce que vous essayez de faire chauffer dans la casserole. Et donc là, ils disent que les pertes sont de 60%. Donc là, c'est même pas des pertes à la conversion, hein, parce que vous récupérez 100% de l'énergie contenue, de l'énergie potentielle chimique contenue dans le gaz quand vous le brûlez. C'est juste que ce design-là, bah, il y a des pertes de chaleur. Et il y a des pertes de chaleur, notamment pour une raison, et ça aussi, c'est un truc qui échappe souvent à des analystes ou à des réflexions, etc. C'est que vu que vous brûlez du gaz, bah, vous avez des produits de cette réaction. Vous avez de l'eau et du CO2. Et donc, vous voyez, vous ne pouvez pas mettre une poche, etc., parce que vous devez évacuer ces produits. Et vous devez ramener du dioxygène pour alimenter la flamme. Et donc, comme vous êtes obligé de dégager les produits, ben, vous êtes obligé d'avoir un flux et ces produits sortent chauds. Donc, en fait, vous êtes obligé de dégager de la chaleur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous étiez collé à une résistance, vous n'auriez pas ce flux dégagé et vous auriez un meilleur rendement. Et d'ailleurs, ce qui montre après, hein, c'est qu'une plaque à induction fonctionne beaucoup mieux. Et la plaque à induction, bah, c'est juste du travail qui est transformé en chaleur, donc maximum 100%. Mais là, ça fonctionne mieux parce que vous chauffez le bon endroit et vous n'avez pas besoin d'évacuer les produits, donc d'évacuer de la chaleur, quoi. Après, ils prennent l'exemple de la voiture. En voiture thermique, on en a déjà parlé, hein, en efficacité réelle, on est autour de 20%. Donc, si vous mettez 1 litre d'essence dans la voiture, ça va être autour de 10 kWh. Et en fait, l'énergie cinétique, voilà, l'énergie mécanique plutôt, mais de déplacement, ça va être autour de 2. Et le reste, ça va être chaleur. Et pourquoi vous avez un rendement qui est moins bon que pour une centrale? Parce que vous avez une petite machine thermique. Et il y a ce problème-là aussi, c'est qu'une machine thermique, c'est un truc compliqué. Faut avoir un cycle. Faut avoir compression, je sais plus les termes, compression adiabatique, nanana, enfin, il y a un cycle avec quatre modes. J'avoue que ça, on vous a pas infligé les détails, on vous a envoyé vers la vidéo de Monsieur Bidouille. Et du coup, ce sont des machines compliquées. Il faut se rendre compte que pendant très longtemps, l'humanité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait des trucs à brûler quand elle voulait de la chaleur, et elle avait des trucs qui fournissaient du travail quand elle voulait du travail. Alors ça peut être le vent pour les bateaux, ça peut être les animaux. Et en fait, c'est que très tard qu'elle a commencé à utiliser de la chaleur pour produire du travail. Avec un truc de ouf qui s'appelle les machines thermiques. Et c'est là que la thermo est née. Hein? En 1600, vous voulez déplacer un truc, vous ne le faites pas avec de la chaleur. Ouais, j'arrive 565, je pensais au cycle de Carnot. Et plus généralement à un cycle moteur. Intéressant, plus la surface chauffée est à haute température, moins il y a besoin de dépenser d'énergie pour la même sensation. Ouais, enfin, ça faut regarder un peu le ressenti face à des radiateurs, mais c'est vrai que si t'es face à un truc rayonnant, tu le ressens ce rayonnement électromagnétique. Néodurden 44, et pour les pompes à chaleur, y a-t-il un coefficient de performance théorique maximum? Oui. Et le cycle maximum, efficacité d'une machine frigo. Je l'ai su. Mais. Ouais, bah c'est là en fait. Efficacité d'une pompe à chaleur. Et en fait, ce truc de l'efficacité d'une pompe à chaleur, alors, tu vas te retrouver avec quelque chose supérieur à 1. Mais ce quelque chose supérieur à 1, il va dépendre de la température. Et c'est pour ça que les COP, normalement, ils le font à une certaine température. J'avoue, j'ai pas encore fait de vidéo sur les pompes à chaleur, mais en fait, tu te rends compte que tu vois, si la température de ta source froide tend vers la température de la source chaude, bah en fait, ton coefficient là, il va tendre vers l'infini. Donc en fait, quand tu as 1 degré d'écart entre l'intérieur et l'extérieur, ton coefficient il est bien plus grand que ce qu'on te donne de 5 et quelques. Alors, si vous voulez. Attendez, laissez-moi réfléchir. Est-ce que je peux vous trouver ça rapidement? Bon, je trouverai pas ça rapidement, mais dans la vidéo qui sortira demain, dans les sources, il y a une vidéo d'un Anglais sur la pompe à chaleur. C'est trop marrant d'ailleurs parce qu'il fait la vidéo en écrivant sur une vitre. Et j'ai regardé la vidéo et j'étais là, mais. C'est incroyable, le gars il arrive à écrire à l'envers avant de m'arrêter au milieu de la vidéo et faire non, non, non. En fait, il a filmé en écrivant correctement et ensuite en montant, il a juste inversé. Mais vous voyez, il y a la vitre entre lui et l'objectif et il écrit son cours comme ça sur la vitre. Ça m'a fait bugger de ouf. J'avais l'impression qu'il écrivait à l'envers de la main gauche, alors que c'est juste une astuce de montage. Et lui, il explique ce truc-là des coefficients et comment ça fonctionne, etc. Mais... Donc, y a un coefficient de performance théorique maximum qui dépend de l'écart de enfin, de la température de la source chaude et de la source froide. Donc, oui, il y en a un. Mais ça va dépendre de la situation. Je regarde juste un peu le chat. Quelque chose que je ne comprends pas, il y a énormément de pertes, mais en vrai, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est pas tant l'efficacité dans la réflexion que les valeurs absolues. Genre, si ton système a 90% de pertes, mais qu'en entrée, tu as une énergie renouvelable quasi infinie, ça peut être 90%, 99%, tu t'en fous. C'est une excellente question, Fabré Fekete. Et je vais répondre un peu plus loin. Du coup, on pourrait avoir les casseroles à induction isolée pour faire des économies, demande Louis Pouzin. Je pense qu'il y a des choses qui se rapprochent de ça. Il y a des trucs malins, genre, je sais plus comment ça s'appelle une. Un truc norvégienne, là. En fait, tu peux faire chauffer une casserole et quand elle est chaude, tu la mets dans un bac qui est entièrement isolé. Et en fait, la cuisson continue avec les calories que tu as déjà accumulées plutôt que le laisser sur un feu ouvert. Ça a un nom. Marmite norvégienne. Neodurden 44, merci beaucoup. Si tu regardais ça, je pense que c'est l'astuce un peu ultime, quoi. En termes d'efficacité pour la cuisson, bah, forcément, tu n'as plus besoin d'alimenter, donc tu réduis quand même pas mal les joules par repas, quoi. Et Jérémy Virin, oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que finalement, qu'il y ait des pertes ou pas, c'est pas ça la question. C'est plus quand on réfléchit à. Comment on fait pour remplacer les fossiles? Faut pas croire qu'on les remplace en un pour un. C'est plus là la. Cocotte minute aussi, ouais. C'est plus là la question. T'es obligé de prendre en compte cette inefficacité. Et du coup, voilà, ils expliquent ça, ils expliquent que c'est une good news parce que bah, quand tu remplaces par des machines électriques, tu vas avoir des gains importants. Donc, tu vois, si tu prends cet exemple-là, bah, en fait, pour remplacer 300 TWh de carburant, ce qu'utilisent les voitures thermiques en France aujourd'hui, tu as besoin de moins de 100 TWh d'électricité, quoi. Et là, pareil. Donc là, on doit être à 90% parce que je suppose qu'il y a des pertes dans les tuyaux qui sont pas vraiment à pièce et tout, hein. Si on brûlait directement le gaz dans la pièce, on serait à 100%. Et donc, voilà, tu te retrouves en fait à ne pas devoir remplacer à un pour un le système existant. Et ça finit avec un scientifique qui parle d'un papier, et ce papier, c'est marrant parce que franchement, je suis tombé dessus, la vidéo était déjà écrite, mais ça rejoint tellement de trucs. Il aurait pu avoir une place dans la vidéo, au final, c'est des choses qu'on effleure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vraiment, ce papier, il est vraiment excellent, notamment pour des ingénieurs, et notamment pour des ingénieurs en France, parce que c'est des choses qu'on n'enseigne pas et dont on ne parle pas et dont la vulga. A de la peine à s'en emparer. Moi, j'essaye. Et en fait, ouais. Alors, il a vraiment une approche de thermo. Hein. C'est vraiment une approche d'ingénieur. Et s'il y a des gens en France qui se revendiquent d'une approche d'ingénieur ou d'une approche scientifique sur les enjeux énergétiques, faudrait quand même qu'ils aient ces notions. Ça me paraît important, quoi. Et en fait, bah, ce qu'il explique, c'est un peu tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, ce qu'on a besoin, enfin, on a les sources de chaleur, on a les sources de travail. Donc vous voyez, le photovoltaïque, c'est l'électricité, c'est du travail à l'état pur, hein, c'est de l'énergie pure. Avec de l'électricité, vous faites tout ce que vous voulez. Et donc là, on a des sources d'électricité directes et on a aussi des sources soit de chaleur, soit de travail quand on utilise des machines thermiques. Et puis après, au bout du compte, on a des services qui peuvent être rendus directement par de la chaleur. Par exemple, le chauffage, la cuisine, le séchage. Et on a aussi des choses dont on a besoin d'un travail. Pour déplacer des masses, pour allumer des trucs, pour faire fonctionner des ordinateurs. Alors, attendez, je vais juste prendre la question de Jenny Hart FR. Je me dis toujours que les énergies qui se perdent pourraient être recyclées. Ça serait possible, genre chaleur en énergie, mouvement en énergie, etc. Bah en fait, c'est tout le problème, c'est que la chaleur, si ces pertes de chaleur sont à une faible température, on ne peut plus rien en faire. C'est vraiment ça le second principe, c'est l'électricité qui passe dans mon ordi là finit sous forme d'énergie thermique dans la pièce, et avec cette énergie thermique, je ne peux pas faire de l'électricité. Si je voulais faire de l'électricité, il faudrait que j'ai une machine thermique et elle fonctionnerait avec de la chaleur, avec un transfert d'énergie thermique. Et comment on fait pour avoir un transfert d'énergie thermique? Bah, il faut un objet chaud et un objet froid. Et en fait, plus il y a l'écart de température entre les deux, plus j'aurai de travail. Là, il fait un peu plus chaud que dehors, ça ne me suffira pas à faire de l'élec. Donc cette électricité, pour le coup, on peut dire qu'elle est consommée et ses pertes, elles sont vraiment perdues. Et merci Jérif565 qui répond dans le chat. Navisline, mon eau de cuisson, je la laisse refroidir en hiver et je la purge en été. Je fais pareil, je fais pareil. Je fais partie de ces gens qui récupèrent l'eau, qui mettent en plus, tu vois, un chapeau dessus pour bah, pas tout perdre en évaporation. Et j'attends que l'eau soit froide avant de la mettre à l'évier. Mais je suis peut-être un peu obsédé. Et il y a un truc qui dit qui est très intéressant. Donc là il explique ce que je vous ai déjà dit aussi, qui est en fait pendant longtemps on avait de la chaleur pour de la chaleur et du travail pour du travail, et c'est que récemment qu'on a des technologies des machines thermiques. Hein, c'est une invention assez récente sur l'échelle de l'humanité. Et là il dit un truc qui est fondamental et qui est raté par beaucoup, hein, qui est là on est face à un changement technologique qui est assez incroyable. Est-ce qu'il le met ici? Non, là, il explique les machines thermiques. Attendez, je vais retrouver le bon endroit. Donc là, il parle des renouvelables, et dans beaucoup de projections, qu'il y en a plus que le nucléaire et que la CCS parce que c'est moins cher. Je vais trouver ce que je veux. Et donc on va avoir de plus en plus de moyens de production qui produisent directement du travail. Voilà. Et ça c'est marrant. Donc il dit, il y a de la littérature non académique qui montre que cette évolution du système énergétique, c'est une évolution, c'est une réduction en fait de la combustion, parce que pour l'instant on utilise de la biomasse et des ressources fossiles et souvent on les a brûlées. Et il y a des personnes qui décrivent ça comme une sortie de mécanisme de combustion, une sortie des machines thermiques. Et lui il dit, c'est en fait c'est même plus fondamental que ça, parce que pendant un temps avec toutes ces machines thermiques, on a eu des services énergétiques qui demandaient du travail. Et pour produire ce travail, on a été brûler des trucs pour avoir de la chaleur. Donc, vous voyez, on va brûler des trucs pour avoir de la chaleur. Avec ça, on produit du travail. Et maintenant, on va faire l'inverse. Et non seulement quand on aura besoin de travail, on va utiliser directement du travail, mais en plus, on va utiliser du travail pour produire de la chaleur. Et notamment, bah, toute la question des pompes à chaleur. Des pompes à chaleur. Donc on passe d'un système qui, d'un point de vue, alors thermodynamique, il y a vraiment cette séparation travail-chaleur. On avait un système où on obtenait plein de travail grâce à la chaleur et aux machines thermiques. Et en fait, on ne va même pas vers un système où ce travail, on l'aura directement avec du travail, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, mais vers un système où même la production de chaleur, il y a des chances qu'on la fasse de plus en plus avec du travail. Donc d'un point de vue thermodynamique, c'est vraiment un retournement du système énergétique. C'est une évolution absolument majeure. Donc je trouve ça marrant parce que j'ai fait de la thermo pendant les mois, donc je trouve ça marrant, mais c'est peut-être un peu subtil et c'est peut-être pas marrant pour tout le monde. Et je vais quand même venir aux points qui sont intéressants. La géothermie restera comme machine thermique quand même. Géothermie restera comme machine thermique, centrale nucléaire aussi. Peut-être cogénération pour les deux, mais. Fabré fait qu'était quête. À titre personnel, c'est quoi ton énergie pré... Ah, on devrait faire une tier list des énergies, tiens. On pourrait faire ça serait drôle. On pourrait faire ça sur un chat, ça serait très subjectif, mais une soirée live, ça serait... Vous voyez ou pas ces vidéos de tier list, là, S, A, B, C, D, et tu classes, je sais pas, les mammifères les plus puissants. Ça serait assez marrant. Ça serait assez marrant. Attends, je vais répondre, mais. Le chat 84 dit d'ailleurs, pour faire chauffer de l'eau, mettre un couvercle économise dans les 30% d'énergie. Alors, je ne connais pas exactement les quantifications, mais je ne serais pas du tout surpris que ça soit le bon ordre de grandeur. Effectivement, quand je l'ai appris, j'étais très étonné. J'étais très étonné. Mais moi, je mets tout le temps un couvercle et même. Et même une fois que l'eau est chaude, il y a des personnes, bah, ils mettent les pattes dans l'eau bouillante et ensuite laissent ouverte. Et moi, je diminue le feu et je remets un couvercle. Je fais assez attention à ça. Niveau sobriété, je râle un peu, mais dans les faits, je vais un peu loin. Et donc, c'est quoi mon énergie préférée? On peut se garder ça sur un chat, peut-être. Je pourrais le mettre sur YouTube. Mais ça serait un mode presque humoristique, hein, parce que enfin c'est très subjectif. On pourrait essayer de faire ça, ça serait drôle. Et donc pourquoi il a fait ça, ce monsieur? Il a fait ça parce que donc il explique sa thermo qui a l'air de le fasciner, je peux comprendre. Et il explique que bah il y a des émanations assez importantes et pourtant il va même à des usages, il va même hydrogéner l'industrie et tout, donc il va à des usages qui sont moins efficaces, enfin où le gain d'efficacité est moindre que pour des trucs aussi monstrueux que la voiture électrique et la pompe à chaleur où il y a un facteur 3-4, hein, qui est vraiment monstrueux. Et en fait il fait des calculs sur le système énergétique mondial entier. Alors, il fait ce qu'il peut, hein, c'est assez compliqué, mais il essaye de faire ça au mieux. C'est un papier assez récent, en plus, hein, 2021. Et il dit que il prend pas en compte l'amélioration d'efficacité incrémentale, il prend pas en compte les gains d'efficacité type isolation des bâtiments, dont on sait qu'ils jouent un rôle important. Vraiment, il regarde juste qu'est-ce qui se passe quand on arrête d'avoir des machines thermiques nulles et qu'on met à la place des machines électriques qui fonctionnent avec du travail, quoi. Qu'est-ce qui passe quand on arrête de faire chaleur convertie en travail, mais qu'on fait travail partout et travail converti en chaleur. Et en fait, ce qu'il montre, c'est qu'on réduit la demande en énergie finale de 40%. Donc, autant vous dire que les mecs qui vous remplacent à 1 pour 1 la consommation d'énergie, ils sont, mais à côté de la plaque. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ils n'ont pas compris le début de ce que veut dire la transition énergétique. Donc vous pouvez regarder les calculs, ils montrent certaines limites, il y a des choses dans les calculs qu'on pourrait discuter, mais l'ordre de grandeur est là. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que je vous l'ai ressorti, parce que je l'avais montré dans la vidéo sur quelle électricité pour demain, mais si vous regardez le rapport de RTE de 2021, qu'est-ce qu'il montrait ce rapport de RTE? Il montrait que si on fait une transition énergétique en France, même en jouant très peu sur la sobriété, parce qu'à l'époque, dans la SNBC, il y en avait très très peu, et il y en a encore assez peu, hein, par rapport à d'autres leviers. Donc, juste l'amélioration technologique, et notamment ce fuel switching, de passer des machines thermiques nulles à des machines électriques, ça fait quoi? Ça fait une réduction de 40% de l'énergie finale consommée. Donc, on tombe sur les mêmes ordres de grandeur, qui sont pas déconnants. Et là, on parle de travail sérieux, et l'autre, on parle d'un élément, d'un papier scientifique publié. Travailler partout, on dirait un problème politique. Remuflé à 02. Ouais, un peu, ouais. Fabre Fekete, merci beaucoup à toi d'être passé. Mais ne pas utiliser 100% de l'énergie du pétrole ou gaz, on s'en tape, on n'a pas à le fabriquer. Ouais, non, mais c'est. Alors, effectivement, c'est un petit peu à côté de la plaque. Non, mais c'est. Le point important, c'est juste quand tu fais un calcul sur la transition, que tu vois que, y a 300 TWh de carburant pétrolier qui sont consommés en France, tu peux pas te dire, je dois remplacer ces 300 TWh sans prendre en compte que les technologies qui remplacent ont besoin de moins d'énergie, quoi. Faut vraiment faire un calcul sur l'énergie finale. Et quand vous regardez ça, et quand vous regardez les gens qui font des calculs de thermo là-dessus, bah ils montrent quoi? Ils montrent que l'ordre de grandeur, c'est 40% d'énergie en moins, ce qui est pas du tout négligeable, quoi. Je sais pas si c'est clair mon message. Mais c'est assez important. C'est assez important, voilà. Retenez que il n'y a pas à remplacer un pour un, en un pour un, les ressources fossiles. Et du coup, bah, ça fait que si la transition est très difficile, avec ce type d'effet, la barre est deux fois moins haute, quoi. La barre est deux fois moins haute. Un peu moins. La barre est une virgule quelque chose fois moins haute. Donc voilà. Et allez, je vais quand même. Toi, 2005, mais au fond, on s'en fout de la quantité d'énergie utilisée dans l'absolu. Non, ce qui compte, c'est les impacts de la consommation. Ouais, on s'en fout, c'est les impacts de la consommation. Et le problème, c'est que la consommation des ressources fossiles, ça nous déglingue la tronche. Donc, on veut les réduire le plus vite possible. Et ce qu'on nous dit, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, on n'y arrivera pas. Et si le chantier, effectivement, il est 40 fois, 40% moins grand que ce qu'on imagine, bah, ça paraît un peu plus facile. Donc oui, si, c'est important. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, si tu réfléchis en termes d'impact, ça veut dire que bah, tu compares les impacts de tes voitures électriques plus 100 TWh d'électricité avec les impacts de tes voitures thermiques plus 300 TWh de pétrole. Donc en fait, quand tu compares les impacts, tu le prends déjà ça en compte. Tu le prends déjà ça en compte. Ça crotte si tu viens d'arriver, ouais, c'est normal. Mais tu pourras regarder le live ou tu peux regarder les vidéos qui sortent demain sur la thermo. Valden 88, ouais, gaz décarboné ici, bah, ils envisagent soit des biogaz, soit des gaz obtenus avec de l'ELEC. Voilà, là, il y a l'hydrogène là-dedans, mais là c'est surtout des biogaz. Décarboné au sens cycle du carbone. Ce qui est juste, hein, si c'est des cycles relativement courts. Vidéo demain, enfin une bonne nouvelle en ces temps troublés. Ah, je sais pas, faudra me dire ça après la vidéo. Bon, je vais quand même en profiter pour toucher un petit mot de ma petite déception quand je travaillais sur la thermo. Donc, petit article de Jean-Marc Jancovici suite à un passage à la radio. Et là, vous voyez, on va aller direct à l'essentiel. Il fait des calculs de coin de table sur combien on aurait besoin de nucléaire pour tout remplacer. Et il pourrait presque le prendre en compte dans son calcul de coin de table. Il dit, certes, le moteur électrique est 3 à 4 fois plus efficace que le moteur à essence et la pompe à chaleur 3 fois plus qu'une chaudière. Mais par contre, on perd énormément dans certains usages industriels ou dans le transport aérien en passant à l'électricité. Et donc, au final, bah, on fait comme s'il n'y avait pas cet effet-là. Et ça, c'est un truc assez ouf. Pas de source, pas de quantification. On gagne ici sur des postes où bah, on consomme énormément d'énergie hein, pour la chaleur et les déplacements. On perd peut-être sur certains secteurs qui consomment pas beaucoup d'énergie et on compte pas. Bah si, faut compter. Faut compter, la littérature, elle montre quoi? Elle montre 40% d'énergie finale en moins. Tu fais un calcul de coin de table en te plantant d'un facteur de cet ordre-là, ton calcul n'a pas trop de sens, quoi. Donc voilà, il serait temps qu'en France, spécialement les personnes qui revendiquent d'une approche scientifique et technique de ces questions-là, s'emparent enfin de la compréhension thermodynamique de la transition, quoi. Ou alors justifie un peu mieux ce type de positionnement. Voilà. J'avais dit que je critiquais pas trop. C'est juste en passant. Parce que je l'ai vu dans mon fil. Faut que j'arrête de lire mes fils d'actualité. Bonsoir, je me demandais, est-ce que ces transferts de poste se font de manière linéaire ou pas? Je comprends pas vraiment la question. Gifreux, mais on a une idée précise des limites de l'électrification. Bah, ce qu'on voit sur l'électrification, c'est que c'est présent dans beaucoup de scénarios, parce que on sait faire de l'électricité bas carbone, qu'il y a des gains d'efficacité importants et que le gisement est important, le potentiel total est important. Est-ce qu'on a des limites? Bah, on sait qu'il y a des secteurs où les gains sont monstrueux, et il y a des secteurs où ça va être plus compliqué. Donc, typiquement, produire de la chaleur, mais enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais à mon avis, dans 30 ans, on regardera on se dira, mais, enfin, avec l'efficacité que peuvent avoir des climatiseurs ou des pompes à chaleur, on regardera très bizarrement le fait qu'on chauffait directement en brûlant des trucs dans le passé. Hein. Ça paraîtra, pourquoi on a fait ça? Alors qu'il faut ramener de l'oxygène, alors que ça émet plein de polluants dégueulasses et problématiques, y compris dans l'intérieur des maisons. Et du coup, fallait sortir de la chaleur. Et c'était inefficace. Et ça faisait des flux de matière de ouf. Vraiment, ça paraîtra aussi bizarre que, je sais pas, quel est l'usage du passé qu'on trouve bizarre. Ça paraîtra aussi bizarre que de s'éclairer à la bougie, quoi. S'éclairer à la bougie, c'était extrêmement inefficace. Il n'y a plus grand monde qui fait ça. Et ça doit coûter plus cher maintenant. Et on regardera pareil ces solutions de chauffage du passé. Hein. Et après, est-ce qu'il y a des limites? Oui, il y a clairement des limites. Il y a des endroits où on n'a pas trop de solutions. Sur bah, l'aviation qui a été mentionnée, par exemple, on peut faire des carburants de synthèse. Est-ce qu'on les fera un jour? Je ne sais pas, parce qu'ils seront plus chers et énergétiquement, ça ne se défend pas, etc. Mais il y a aussi un problème de raisonnement là-dedans qui est bah, s'il y a des secteurs où vraiment c'est nul d'électrifier, vous ne pouvez pas dire, ah, vous gagnez un facteur 3 ici et vous perdrez un facteur 3 là. Bah non, c'est juste que ce truc-là, il ne sera pas électrifié. On trouvera d'autres solutions, ou il n'y aura pas de solution, ou on réduira, ou on mettra des absorptions en face, mais c'est limite un homme de paille de dire, ah bah c'est dans ce secteur-là, vous divisez par 3, mais j'imagine que vous allez faire ça dans l'aérien alors que personne ne prévoit de faire ça, et du coup ça fait je sais pas quel volume en plus, donc ça compense. C'est très bizarre comme manière de penser. Et après, attendez, je vais quand même répondre rapidement. Je l'ai pas fait pour tous les secteurs qui sont régulièrement opposés, mais on mentionne l'acier. Voilà, l'acier, on m'avait opposé ça dans un échange mail. L'acier aujourd'hui, une des solutions envisagées, c'est l'hydrogène. Pourquoi on n'y est pas encore? Parce qu'on a moins de gains ici qu'ailleurs et parce que c'est plus cher qu'ailleurs. Mais on a déjà des prototypes. Hein. Il y a Hybrite en Suède qui est une aciérie qui fonctionne avec de l'acier. Aujourd'hui, regardons la route hydrogène. Voyez. Là, c'est la route standard au charbon, etc. Donc là, vous avez besoin de 18,8 gigajoules majoritairement de charbon par tonne de hot roll, je sais pas quoi, d'acier sous une certaine forme. Vous faites la même avec de l'hydrogène, vous avez besoin de moins d'énergie. Alors là, vous allez me dire, ah, c'est pas ta voiture électrique, le gain, il n'est pas de 3. Bah non, il y a un gain, il est plus faible, mais il y a un gain. Et ça, c'est littérature publiée. C'est pas, je donne mon préjugé sur LinkedIn, quoi. C'est vraiment littérature publiée. Et du coup, quand on regarde un petit peu, c'est pareil. J'avais regardé les mines à un moment. Il n'y a pas grand-chose qui existe. Si vous électrifiez une mine, elle consomme moins d'énergie. C'est pas un facteur 3-4 comme une pompe à chaleur ou une voiture électrique, parce que tout n'est pas aussi facile. Mais ça aussi, il y a des engins de mine électriques aujourd'hui qui sont énormes. Ça existe aussi. Il y a des mines qui sont entièrement électrifiées aujourd'hui. Et une mine, quand vous l'électrifiez, vous consommez moins d'énergie. Et donc, les augmentations de je sais pas où qui compensent, vraiment, je vois pas. Peut-être des trucs comme l'aviation, mais c'est des volumes, ça compense pas, quoi. Je sais pas si ça répond. Ciment, c'est pareil, c'est la principale, pour moi, la principale consommation du ciment, je me plante peut-être, hein, mais c'est du chauffage. Si le problème c'est du chauffage, avec de l'électricité, au pire, vous faites du 1 pour 1. Au pire, vous faites du 1 pour 1. Alors, j'ai soulevé plein de questions. Chauffage électrique, je sais que c'est un peu une hérésie, mais si on acquiert un bien qui en est équipé, on ne change pas d'office pour une PAC. Bah, c'est une bonne question, Heinrich VK. Moi, je suis dans cette situation où j'ai des radiateurs électriques chez moi et je pense que enfin, c'est plutôt bien parti. J'aurai une pompe à chaleur dans pas très longtemps. RR, je vous dirai si c'est plus ou moins bien, mais j'essaye d'appliquer mes conseils à moi-même. Navislai, ouais, comme nous, avec les trains à charbon et les machines à vapeur, ouais, c'est vrai que quand on les regarde à côté des trains électriques, ça paraît chelou, quoi. Et je pense que la plupart des moyens de chauffage thermique, quand on les verra face à des pompes à chaleur dans le futur, on aura un peu le même effet, hein. Franchement, voiture électrique, c'est gros, faudrait les faire plus petites, faudrait avoir des plus petites batteries et tout. Il y en aura quand même, et je pense que les élections nous rappellent encore une fois, hein, je ne sais pas si vous avez entendu un peu les personnes qui veulent extrême droite en dehors des grandes villes, mais clairement la voiture ça devient un point bloquant, donc si vous leur dites prenez le vélo, je vous garantis que vous n'allez pas aimer le prochain gouvernement. Mais donc il y aura des voitures électriques, ça c'est certain. Le jour où on aura une majorité de voitures électriques, mais on se dira mais comment on a accepté d'avoir des voitures thermiques qui puaient, qui étaient bruyantes? Où fallait avoir des pompes, des trucs à essence partout et tout. C'est, enfin, vous voyez, une fois que ce changement a eu lieu, quand on regardera en arrière, on fera, ah ouais, mais pourquoi en fait? Où fallait changer les bougies, le vilebrequin, la courroie, où c'était toujours crasseux, où le garage y puait. C'est, on fera, mais pourquoi? Où ça vibrait à l'intérieur, ça faisait du bruit, mais pourquoi? Où on récupérait même pas l'énergie au freinage, mais quelle hérésie, quel monde préhistorique. Donc non, c'est vraiment des évolutions importantes. Ok, mais moins d'énergie finale, est-ce que c'est moins de CO2 ou est-ce que c'est une énergie qui sera quand même dépensée parce qu'elle est dispo et donc moins chère, donc autant de CO2? Bah non, enfin, ça rend pas, les pertes deviennent pas disponibles, hein, c'est. Je comprends pas trop la question, Sacrode, mais c'est quand tu veux, pour la même température chez toi, que tu mets une pompe à chaleur à la place d'une chaudière au gaz, avec 1 kWh d'électricité, tu élimines 3 kWh de chaleur, de gaz. Dit autrement, est-ce que l'énergie économisée par la généralisation des moteurs électriques et pompes à chaleur est comparable linéairement à celle économisée par un usage moindre des hydrocarbures dans l'industrie? Je comprends pas la question, je suis désolé, Connur là. Gifford, j'ai l'impression que ces limites concernent toutes les fonctions à forte autonomie, dont le transport, et c'est une fonction très structurante pour les humains que nous sommes. Alors, il y a deux réponses là-dedans. Ces limites ne concernent pas le transport en général. Sur le transport léger, on sait déjà comment faire. Sur tout ce qui est en dessous, on sait déjà comment faire. Les deux roues thermiques, c'est une hérésie, c'est une absurdité d'un autre temps. Sur les transports lourds, on sait déjà à peu près comment faire. Sur le maritime international, il y a des questions qui sont ouvertes. Sur l'aérien, on a moins de solutions. On y bosse, mais une partie de la solution, ce sera sans doute aussi de réduire les volumes. Donc, déjà, sur beaucoup de transports, quand même, sur une bonne part des transports, on a une bonne idée des marges de manœuvre et elles sont considérables. Et ensuite, mettons qu'il y a un truc qu'on n'arrive pas à faire ou qui nous demande beaucoup, beaucoup plus d'efforts, etc. Bah, peut-être on ne le fera pas ou peut-être on le fera plus tard. C'est assez étrange de rester focus sur des. Surtout sortir à chaque fois l'aérien. L'aérien, c'est quoi? C'est 2% des émissions, ça doit être 1 ou 2% de la consommation d'énergie. Vraiment, si vous bloquez sur le pourcent, c'est rater tout le reste du chantier et se rendre compte qu'on a déjà des gains qui sont considérables. Chaque émission de CO2 compte, faut se battre sur tous les fronts, autant aller déjà gagner ceux qui sont gagnables facilement. Et là-dessus, c'est important de se rendre compte que neutralité carbone, ça ne veut pas dire zéro émission. S'il y a des secteurs impossibles à décarboner et que c'est 1% des émissions, bah, c'est possible qu'on mette de l'absorption ou whatever en face. Faut pas croire qu'il y aura zéro émission en 2050. Neutralité carbone, si on l'a en 2050, la neutralité carbone, hein, ce qui n'est pas gagné, ce sera pas zéro émission de CO2, ça sera zéro émission nette. C'est une grosse différence. Et ensuite, il y a un autre truc à se rendre compte, c'est que on aurait eu cette discussion en live Twitch il y a 20 ans. On n'avait pas de solution pour la mobilité légère. On aurait rigolé ensemble du balbutiement ridicule des éoliens. Et le photovoltaïque, on aurait dit c'est bon à faire des satellites, quoi. Et il y a 20 ans, il y a 20 ans, les batteries étaient hors de prix, c'était impensable d'avoir des voitures électriques ou pas loin, tout le monde pariait sur des voitures à hydrogène qui sont extrêmement inefficaces, le photovoltaïque était ridicule, les prix projetés paraissaient énormes et l'éolien commençait seulement. Ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, à quoi bon se flageller avec des secteurs très durs à décarboner? Dans 20 ans, on sera ailleurs. Et ce qu'on peut faire d'ici 20 ans, c'est de réduire de moitié les émissions en mettant en place tout ce qu'on sait déjà faire, quoi. C'est aussi ça l'enjeu. C'est. Je sais, ouais, c'est. Je sais pas, c'est assez étrange en fait d'arriver. Vous arrivez dans une maison où vous avez tout à rénover et vous faites des nœuds au cerveau en vous demandant si vous arrivez à fixer la plinthe de la huitième chambre. Vraiment, c'est pas l'enjeu. L'enjeu là, c'est les gros travaux. Les gros travaux, on sait déjà ce qu'il y a à faire. Navis Lee, projet de mine de lithium dans l'Allier, c'est électrifié. Ouais, effectivement. Bon rappel. Je comprends pas alimenter une électrolyse avec des ENR VS charbon. Oui, c'est clairement mieux en ENR, mais avec du craquage d'hydrocarbures pour faire l'hydrogène, une électrolyse coûtera toujours plus d'énergie. Bah, je sais pas ça, Alric 38. Parce que quand tu fais ce calcul-là, tu prends en compte l'énergie potentielle chimique de ton gaz. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ben, vous pouvez regarder le papier, hein, sur l'acier, à minima, ça paraît difficile de dire que de l'acier vert demande plus d'énergie. Ou alors, bah, c'est pareil, au lieu de le déclarer, vous le montrez, quoi. Louis Pouzin, est-ce que je suis bien isolé? Non, je ne suis pas très bien isolé, mais je vais aussi faire l'isolation extérieure. Le gluon du trou, ça fait clim. Pompe à chaleur RR font clim. Oh, non. La pompe à chaleur RR, ça a l'air bof en confort. Chauffer de l'air, ce n'est pas très efficace. Ben, Max B, ben, je vous dirai. Je vous dirai, j'ai un peu ces retours-là, notamment sur les installations anciennes. J'ai des personnes autour de moi qui sont satisfaits. Donc, je vous dirai. Mais clairement, moi, j'ai pas de circuit d'eau dans la maison. Donc, oh, ça aurait été compliqué. Il aurait fallu péter le plancher, quoi. Donc. Jérémy Virin, mais la conso au final, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est les émissions de CO2, impact sur la biodiversité, faisabilité. Ouais. Mais ce dont on parle ici, l'efficacité des technologies, ça joue là-dessus. C'est juste que si tu poses le problème comme ça, c'est un intermédiaire dans ton calcul, mais c'est un intermédiaire dans ton calcul. C'est si ta voiture électrique est deux fois moins efficace, bah t'as deux fois plus d'impact à l'utilisation. Oui, si tu switches clim en été, il y a un effet rebond. Ouais, Louis Pouzin, ça se discute. Ça dépend de l'usage de la clim. Il faudrait faire un épisode sur les clims, hein, parce que je pense qu'en France, on a ce petit côté où on n'aime pas les clims. Alors qu'il y en aura besoin et alors que la plupart des pays chauds les mettent en place dans les mesures d'adaptation. Il y a quand même un truc à se rendre compte. Ouais, encore, ça va nous lancer loin, mais si je fais la pompe à chaleur, il faudrait que j'aborde ces questions-là, et notamment les préjugés en France. Mais le truc, c'est vrai, hein, qu'il y a une consommation supérieure si tu le passes en clim. Et puis après, ça dépend des pratiques des clims. Donc ça va être comme pour le chauffage. Ça va dépendre à quel point tu refroidis. Mais il faut quand même se rendre compte que une pompe à chaleur, c'est efficace en chauffage, mais ça l'est encore plus en clim. Vous pouvez calculer ce qu'on parlait là de l'efficacité, et puis ça dépend de la température, la différence de température, mais c'est efficace en climat. Redrux 171, la pompe à chaleur chez mes parents, ils n'ont pas trop de sous, ça coûte 500 euros par an de réparation. Bah, je pense que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des aides pour la pose, et à chaque fois qu'il y a des aides, il y a des gens qui en profitent, et il y a des choses qui sont très mal posées. Je ne crois pas que ce soit automatique avec toutes les clims ou tous les artisans. Après, c'est vrai que la visibilité là-dessus, c'est pas toujours évident d'en avoir une, quoi. Et je rive 565, en été, il n'y a pas de souci de fourniture d'élec décarboné en général, donc très peu d'impact. Et ça aussi, c'est vrai, c'est la clim, ça peut être une consommation supérieure, donc ça peut être un effet rebond, mais effectivement, ce qui va être important, c'est quel est l'impact de cette consommation, et si votre clim, elle est sur le pic de photovoltaïque de la journée, l'impact de cette consommation, il n'est pas incroyable. Et ça va être moins que l'impact au moment du pic de froid de l'hiver où c'est des centrales thermiques qui pagaient, quoi. Donc tout ce truc un peu moralisateur de faites attention à tout, ce que j'entends comme message, moi je fais attention à tout, je suis pas sûr que ça soit bien de le mettre sur la clim, dans le sens où ce qu'on gagne comme impact, c'est pas grand-chose. Vous voyez, si vous commencez à faire chier les gens avec faut pas manger de viande, faut pas partir en vacances, faut pas mettre de clim, faut pas acheter des trucs, il y a un moment. c'est normal que ça pète un câble. Et donc, si on a un nombre limité de messages à faire passer, faites attention à l'avion, à la viande. Un peu de clim en été, clairement, si ça vous aide à dormir, n'hésitez pas trop, quoi. Moi, ce truc moralisateur sur la clim, j'ai plus de mal que sur d'autres messages. Je pense que c'est pas. C'est comme les gars qui disent vider la boîte mail, quoi. J'exagère un peu, hein, l'impact n'est pas le même parce que les consommations d'électricité sont plus importantes, mais j'ai quand même l'impression que c'est un problème de focus. Pardon, je fatigue, donc je commence à être plus véhément. Je pourrais le dire plus gentiment. Je pense que c'est pas forcément l'endroit où faut mettre le focus parce que l'impact n'est pas monstrueux. Et ce qui m'agace un peu là-dessus, c'est que je pense qu'il y a il y a un tropisme là-dessus en France, et notamment avec une réticence à financer des pompes à chaleur parce que ça peut servir de clim, et la clim, c'est considéré comme du confort. Franchement, il y a des régions de France aujourd'hui où la clim, c'est pas plus un confort que le chauffage. Vous êtes dans le sud de la France, vous avez vu à quoi ça ressemble le sud de la France aujourd'hui? Je préfère être chez moi en hiver sans chauffage qu'être dans le sud de la France en août sans clim. Donc, ça c'est un truc, ouais, c'est bizarre, hein, ce truc de réseaux sociaux moralisateurs où c'est normal de chauffer en hiver quand même, il faut lutter contre la précarité énergétique, mais alors la clim, c'est vraiment un truc de riche. C'est. Franchement, putain, les vacances dans le Var en août, ça devient plus trop sexe, hein. Et Bluxarems, qui fait un rappel important, on est parti sur plein de sujets là, qui fait un rappel important, qui dit petit bémol pour le chauffage, un argument était de dire qu'en plein hiver, la production marginale d'électricité est faite au gaz. Donc tu as peut-être intérêt à être sur du bois à ce moment-là, par exemple. Par contre, du gaz individuel, aucun sens à mon avis. Bah si, en fait, ah ouais, face à des pompes à chaleur, ça change plus grand-chose de brûler le gaz chez toi ou dans la centrale. Parce que ce que tu perds en efficacité de conversion, tu le récupères sur la pompe à chaleur. À la grosse louche. Mais c'est vrai ce que tu dis, il y a toujours cette question du pic et il y a la question de la gestion de ces pics et des impacts que ça peut avoir, ce qui rend le calcul un peu plus difficile. Après, ouais. Pas évident comme sujet, parce qu'il faudrait parler de la biomasse et je suis pas trop équipé. Je pense qu'il y a des problèmes de volume, donc ça va dépendre de comment on répartit ce qui est disponible. Mais c'est une question intéressante en tout cas. C'est une question intéressante et c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ce qu'on utilise comme électricité et à quel moment. Le Chat 84, la première voiture à dépasser les 100 km/h, était électrique. Effectivement. Hicham 35, les gros travaux isolés toute la France. Ouais, écoutez, je me suis lancé un peu dans cette aventure. Je vous en dirai plus dans quelques mois, quand j'aurai avancé. J'espère que ça va bien se passer. Jérémy, CTR, là en but, c'est les constructeurs qui font pas les efforts pour les gens de la campagne. Ma femme s'est fait 100 km par jour pour le travail. Zoé. Toi, entre 300 et 500 km par jour, pas de véhicule électrique qui tient la route. Tu fais quoi? C'est quoi comme trajet? Et il y a un moment où tu l'arrêtes la voiture sur sur ce trajet? Ouais, il y a des taxis en Élec. Près de chez moi, il y a pas mal de Tesla en taxi. La mise en place d'un certain nombre de pompes à chaleur permet d'économiser un certain nombre de watts en une certaine période. On dépense des watts pour les mettre en œuvre, on en économise ensuite. Est-ce que dans la même période, un effort proportionnel en entrée d'énergie pour obtenir des économies dans l'industrie permet un gain proportionnel en watts, ou est-ce qu'il est d'autant plus? C'est une question compliquée, Conurlar. Faudrait planifier ça, mais je pense que je ouais. Et en plus, j'ai aucune idée de la quantité d'énergie qu'il faut pour construire. Mais ce que tu te poses, c'est un petit modèle de transition, quoi. C'est un peu compliqué pour que je sois capable de te répondre. Surtout à la volée. sur un truc que j'avais préparé, hein, ce que je vous ai raconté, mais là on est parti un peu au-delà. Surtout fais gaffe où tu mets tes clims, avoir un truc qui te souffle sur la nuque pendant que tu travailles, c'est horrible, pareil quand tu dors. Ok, Louis Pouzin, je ferai gaffe, merci beaucoup. Je vous dirai, hein. Vous voyez, avant de vous faire les vidéos là-dessus, je vais expérimenter moi-même. Et je vous dirai, je vais faire des nouveaux types de reportages. Pour vous, j'ai essayé la pompe à chaleur RR. 30 jours. Ouais. Non, les retours négatifs que vous avez, je les ai déjà entendus aussi. Évidemment, je m'inquiète un peu pour les travaux parce que c'est quand même des travaux assez gros et c'est quand même des grosses sommes engagées. Mais bon, hein, si je ne le fais pas avec la YouTube Money, qui le fera? Par contre, en vrai, si j'étais pas aussi lent à faire les vidéos, j'aurais pu arriver avec mes dossiers bien travaillés. Alors que là, je travaillerai mes dossiers après avoir fait certains choix pour moi. Problème de la clim, c'est l'effet d'îlot de chaleur que ça peut accentuer en ville, nous dit Soloran 66. Et c'est vrai, ouais, parce que vous rejetez la chaleur dehors et puis vous avez consommé de l'électricité, donc vous rejetez plus de chaleur que si vous n'avez rien fait. Donc il peut y avoir cet effet-là. Après, cette chaleur supplémentaire que vous rejetez du fait de la consommation d'électricité, il ne faut pas trop l'exagérer. C'est. Après, oui, si vous réglez les clims comme des Américains, c'est clair que c'est un problème. Mais c'est encore une question de consommation, quoi. Si vous faites comme des Américains qui règlent leur clim plus bas en température l'été qu'ils ne règlent les chauffages haut en température l'hiver, il y a un problème de culture. Donc la clim, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Ça dépend ce qu'est l'usage. Ça dépend ce qu'est l'usage. Moi, je réfléchis clim comme je réfléchis chauffage. Et moi, je réfléchis clim pour pouvoir dormir les nuits d'été insupportables comme je réfléchis chauffage. Et chez moi, j'ai mon bureau à 19 quand je suis dedans. Et le reste de la maison, quand il n'y a que moi à la maison, ben, n'est pas chauffé, quoi. Donc si j'ai la même pratique de clim, ça va pas faire des gros volumes, hein. La clim dans les magasins portes ouvertes, bah oui, mais là le problème. En vrai, c'est une façon de voir. Ouais. On peut dire la clim dans les magasins portes ouvertes, c'est la clim, tu vois. On peut dire ça. Ou alors on peut dire bah, c'est le truc d'ouvrir les portes des magasins. C'est comme. Moi, le truc qui m'énerve, et c'est. Donc je vais me promener dans la super forêt là, pour prendre des photos de couleurs. Et t'arrives au milieu de nulle part. T'as un endroit qui est hyper joli. Et t'as un paquet de chips et deux canettes de coca. Et tu te dis, ok, il y a un mec, il est venu là. Ou deux personnes probablement. Ils se sont fait un petit goûter ou une petite soirée tranquillou et ils ont laissé tous leurs déchets quoi. C'est quoi le délire quoi? Et donc là c'est pareil, tu peux te dire le problème c'est que les canettes soient pas biodégradables ou alors le problème c'est les comportements. Ça crode. Ouais, ça pose la question des pompes à chaleur quand il fait froid. Bah écoutez, je vous promets, je ferai des vidéos là-dessus un jour. J'espère avant mes 60 ans, sinon ça sera moins utile. Mais c'est prévu, après, vous voyez, j'ai mis 4 mois à faire une vidéo sur les thermos. Pour le chauffage, les panneaux solaires à eau chaude ont un bon rendement. Bah, j'avais bien aimé, moi, quand j'avais fait les vidéos sur le solaire thermique. C'est. Ouais, c'est. Alors, je pense qu'il y a encore plus des problèmes de connaître des personnes et les volumes sont moins grands, donc il y a peut-être des coûts aussi. Mais je crois que de mémoire, il y avait quand même des problèmes de savoir-faire un peu en France. Et quand j'avais fait la vidéo, ça remonte à loin, hein, mais je me rappelle qu'il y avait des pays qui en avaient beaucoup plus. Il y avait vraiment une culture de ces technologies-là. Technologies qui sont relativement simples d'ailleurs. Notamment Chypre et de mémoire aussi l'Autriche, ce qui est assez étonnant. Et c'est vrai que pour chauffer, ça peut être assez efficace avec des choses qui existent aussi dans certains pays. Il y avait un exemple au Canada et je crois que c'est assez répandu au Danemark d'utiliser ces technologies-là pour chauffer des réservoirs que vous utilisez en hiver. En fait, contrairement à une idée reçue, c'est plus facile de stocker de la chaleur que de l'électricité. Et du coup, quand on arrive sur... Alors, bon, là, on parle d'une échelle qui est plus du particulier, mais ça peut être envisagé. Je pense que ça se calcule un peu au cas par cas, la question du solaire thermique. À minima, ça peut être bien pour le talon de la consommation, quoi. Donc, pas espérer trop chauffer en hiver, mais l'eau chaude sanitaire toute l'année, ça peut être intéressant. Ouais, Louis Pouzin, en vrai, c'est des discussions intéressantes sur la climatisation. C'est juste que. Je pense qu'il y a un sujet à avoir. Et là, il y avait un message aussi de quelqu'un qui disait moi, je vis dans le sud, voilà, j'habite à 40 km de l'Espagne, je ne chauffe pas en hiver, sans clim, je me pends. Donc, il faut aussi se rendre compte de. Sur le territoire, on a des besoins qui sont différents. Et je pense un peu étrange, ouais, de considérer. Que le chauffage pour les gens dans le nord en hiver, c'est important et il faut lutter contre la précarité énergétique et pas avoir une réflexion un peu similaire pour des régions qui deviennent difficiles sans clim. Et quand vous regardez, je sais pas, en Chine, par exemple, hein, y en a. Hein. Outre-mer aussi, on pourrait penser. Et ça n'empêche de. Et là aussi, l'isolation, ça peut aider. Et la culture aussi, quoi. C'est fermer les volets, avoir des maisons orientées correctement, certains matériaux, etc. On rappelle France égale Paris et Paris égale la France, la clim à Paris, sûrement dispensable. Ok, j'aimerais. Effectivement, tu as un cas qui peut être plus difficile à électrifier. Bon, les amis, moi je vais commencer à fatiguer et demain j'ai une sortie de vidéo à faire, donc je vais pas trop traîner. J'ai lancé des discussions bien plus loin que ce que je voulais juste alerter sur la thermodynamique. Et sur les calculs de coin de table, et sur on ne va pas remplacer l'énergie qu'on consomme à un pour un, à usage équivalent. Et la littérature me paraît un peu claire là-dessus. Et ce serait bien de l'intégrer. Beaucoup de discussions dans le chat. J'ai lancé plein de débats que je n'arrive pas à suivre. Mais plutôt que de commencer à raconter n'importe quoi, je vais. Avance. Adrien D, la vidéo sur CSS avec Loïc prévue pour dans longtemps. Il avance encore sur le script et puis après ça sera moi l'élément bloquant. Sachant que normalement j'ai un projet avant et peut-être un truc perso avant aussi. Donc quand c'est moi l'élément bloquant, ça devient dur de donner une. Mais en tout cas, je crois qu'il a pas mal bossé. S'il a pas mal bossé, le texte sera plié rapidement. Je sais pas. Je peux pas donner de date. Mais il a déjà bien avancé, il me semble. Ah, j'arrive au merci. J'espère ne pas vous avoir dit trop de bêtises. Ça reste un live. J'espère que vous avez apprécié cette soirée, même si mon expertise politique est limitée, et que c'est quand même le sujet chaud, hein, sacrée actualité. Ah oui, ouais. Donc demain la vidéo sort, et du coup mardi prochain, on fera le live post-publication de la vidéo. Et je serai avec Jean-Loup Fourquet d'après la bière, vu qu'on a travaillé ensemble là-dessus. Je sais pas trop quelles vont être les réactions à cette vidéo. Je sais pas si ça va intéresser. Je sais pas si elle va fonctionner. Donc, à minima, on fera le live post-publication la semaine prochaine, et si ça part en vrille, c'est possible qu'on en fasse un de plus. On a de quoi faire. C'est des longues vidéos, mais il y a quand même pas mal d'éléments qu'on n'a pas mentionnés tant que ça. Et voilà, même ce qu'on a fait là ce soir, ce que je vous ai parlé un petit peu, ça sera en filigrane demain, mais c'est pas très présent, quoi. Et moi, où est-ce que je vais vous envoyer? Ah, Twitch, c'est particulier quand même. On fait un classique, tout se comprend. Je suppose que vous aimez la vulga. Je vais pas vous envoyer sur des chaînes de personnes déguisées en panda avec un décolleté. Je regarde pas beaucoup Twitch en fait, hein. C'est étonnant. Apparemment, j'ai pas le bon code vestimentaire. Il me faudrait une piscine à bulles. Yes. On était un peu moins nombreux ce soir, mais actualité, je suppose. Allez, je vous envoie chez Tout ce qu'on prend. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à la prochaine. Merci Zeki pour ton abonnement Prime. Allez, bonne soirée. Appréciez la vidéo demain, s'il n'y a pas de souci. Et on en discute la semaine prochaine. Bonne nuit.